Warning. Si vous n'avez pas encore vu le film qui suit et que vous ne voulez pas que l'intrigue vous soit dévoilée, arrêtez ce podcast maintenant. On vous aura prévenu.
There was value in the thing, clearly. That they were certain of. But what is the application? In a matter of hours, they turned it to everything from mass transit to satellite launching. Imagining devices the size of jumbo jets. Everything would be cheaper. It was practical, and they knew it. But above all that, beyond the positives, they knew that the easiest way to be exploited is to sell something they did not yet understand. So they kept quiet.
Уж не собираетесь ли вы учить меня смыслу жизни?
Une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle.
The robots are coming.
I want more life. Fucker.
24 quarks secondes. Nous sommes le 2 novembre 2015, bienvenue au 38e épisode de 24 quarks secondes, le podcast des mordus de cinéma de science-fiction, lors duquel nous repassons à travers des films et séries que nous avons aimés ou pas. Je suis Nicolas Petzilas et avec moi Marie-Louise Garrier-Py.
Salut.
Vous pouvez retrouver tous les épisodes de ce podcast sur notre site internet 24quarks.com, c'est 24quarks.com et sur iTunes. Et si l'envie vous prend de réagir à une discussion, de commenter, de nous faire des suggestions, vous pouvez aussi nous contacter par courriel à 24quarks, toujours avec un S, à commercial@gmail.com. On continue notre série sur le voyage dans le temps avec un film que j'avais jamais vu.
Moi non plus.
Primer, un film indépendant américain. Réalisé, produit, monté, joué,
scoré par
Shane Carruth et qui est apparu pour la première fois au festival de Sundance en 2004 où d'ailleurs il a remporté le grand prix du jury.
Et qui a son petit culte, hein, on dirait.
Ouais, et qui a formé un petit culte, un petit following pas négligeable. Enfin, ça a été...
C'est niché, hein, je crois, on peut dire niché.
Ouais. C'est le mot, ouais. C'est ça. Pour accompagner notre discussion aujourd'hui, là, tu nous as trouvé un petit rouge, un italien des Pouilles, c'est un merlot et qui s'appelle Primo.
Et voilà, qu'est-ce que je suis
Primer,
subtil.
Primo. Voilà. D'ailleurs, on a essayé de trouver la traduction de Primer.
On n'a pas essayé.
Enfin, on n'a pas essayé, mais on en a parlé.
On en a parlé.
C'était genre, qu'est-ce que ça veut dire, Primer?
Laisse-moi taper sur Wikitionary.
Wikitionary.
Le nom...
Surtout là, je suis dans les rénovations, donc le Primer, je connais ça, mais que... C'est ce que tu mets avant de peindre.
Ça veut dire plein de choses. C'est une prière ou un livre dévotionnel pour les laïcs.
OK.
OK. Sinon, c'est
un
livre pour enfants pour enseigner la littérature. C'est des vieux mots. Un texte d'introduction au concept de base. Une classe élémentaire, l'école primaire.
Ah ouais, c'est primer?
Ben oui, an elementary school class, an elementary school students.
OK.
En Nouvelle-Zélande, ça c'est en Nouvelle-Zélande. Mais sinon, je pense que j'avais vu, ça a l'air rapport avec la prière. Donc, je suis peut-être en étymologie 2, je vais trouver quelque chose de plus intéressant. Ça vient du latin, c'est un adjectif qui dit le premier, first in time, le premier en importance, first in a position, mais c'est tout des mots obsolètes. Donc, okay. C'est de l'anglo-normand. L'anglo-normand, donc, ça vient du français, du latin. Primeris, primer. Donc, je pense qu'il a fait une recherche Internet, puis il est tombé sur Wikitionnaire, puis il s'est dit, tiens, moi, je pense que c'était first in time, initially, early.
Ouais, et c'est peut-être ça.
Ça serait ma théorie.
Ouais, ben, vraisemblablement, c'est ce qui est le plus plausible dans ce cas-là. Bon, ben, si vous avez des suggestions de titres en français, Primer. D'ailleurs, je ne sais pas, quand il est sorti ici, il est disponible en vidéo sur le titre Primer, il n'a jamais été traduit, là.
Non, puis je ne pense pas que sur Wiktionnaire, il explique.
Moi, j'en ai toujours entendu parler comme Primer, puis that's it. Primaire.
Primer. Non, primer. C'est primaire. Primer.
Bon, tu as la notion du premier aussi, ils sont comme...
Ben oui, mais tu as la notion du double, puis du...
Ben oui, il y a ça aussi.
Mais l'original...
Ouais.
Mais bon, avant qu'on commence à parler du film, il faudrait quand même que tu nous fasses ta description.
Mais même avant ça, avant de rentrer là-dedans, en fait, j'avais quelques petites plugs du jour.
Ah, mon Dieu. Allons-y
quelques
pour les plugs du jour.
Quelques petites infos, quelques petites plugs du jour. Et j'ai lu ça tantôt sur le site blaster.com et c'est une nouvelle qui va réjouir certains puisqu'il semblerait que Star Trek va revenir à la télévision.
Oui, je sais, j'ai pas dit un mot parce que t'as vu mes yeux qui sont devenus très grands.
Yay! Ça a l'air que c'est officiel, ça va revenir sur CBS, qui était d'ailleurs là où passait la série originale dans les années 60. Il n'y a pas encore de date précise, etc. Mais en tout cas, c'est officiel. Il va y avoir des nouveaux personnages.
Ben, ça va être
à nouveau être
une nouvelle génération.
Un nouvel équipage qui part à l'exploration de civilisations nouvelles, etc.
Ça va être dans l'univers de Star Trek, mais ça va être une nouvelle aventure.
Ouais, c'est ça.
Donc, comme on a vu avec Next Generation, Deep Space Nine,
c'est ça.
Etc.
Donc voilà, les fans, réjouissez-vous.
Ah, ben, moi, je suis contente parce que j'avoue, je ne suis pas une maniaque de Star Trek, mais j'aime bien.
Ouais.
C'est comme, je trouve que c'est de la sci-fi positive. C'est ça que j'aime, tu sais, c'est le côté que l'être humain devient meilleur, qu'il est à la recherche. Il y a le principe, la fameuse First Directive, première directive, qui suppose que on arrive à, je sais pas, un espèce de niveau de conscience plus élevé. Puis, il y a beaucoup de dilemmes moraux qui sont exposés dans Star Trek, mais c'est jamais comme... c'est jamais des choses vraiment très bas, des guerres motivées par la cupidité. Oui, c'est comme souvent complexe. Puis aussi, il amène des belles notions de science intéressantes.
Mm-hmm. Ben, ça a l'air qu'ils vont continuer dans cet esprit-là, en tout cas.
Mais j'espère, parce que moi, c'est ce que j'avais détesté du dernier film. Bon, le premier, ça allait parce que ça relançait la franchise, le premier film. Puis c'était intéressant ce qu'ils avaient fait avec cette idée de temps... pourrait même avoir Star Trek dans notre...
timeline alternative.
Dans notre lancée sur le voyage dans le temps, Star Trek.
C'est vrai que ça aurait pu rentrer là-dedans.
Mais bon, tu sais, je veux dire...
Des épisodes qu'on dealait avec ça aussi.
Dans lui, c'est que c'était vraiment... Ce qu'il y avait d'intéressant, c'est qu'il y avait les Star Trek originales. Et puis là, plutôt que de dire, on repart les Star Trek originales, mais dans une ligne de temps alternée. Tu peux revisiter toutes les Star Trek avec des personnages, mais dans des relations comme il y avait fait dans le deuxième. Mais le problème, c'est que le deuxième film était juste... C'était un film d'action déguisé en Star Trek. C'est ça qui est désagréable quand tu es habitué à des intrigues basées sur l'intelligence puis les liens entre les personnages.
C'est ça.
Moi, j'avais été déçue. Mais donc, je suis curieuse de voir ce qu'ils vont faire avec cette série télé.
Ouais,
les séries télé sont tellement bonnes maintenant qu'on peut espérer le
ouais,
meilleur.
Ouais. Donc, c'est ça. Ben, donc, une fois de plus, on aura les liens à toutes ces news et tout ça dans les show notes.
Il n'y a pas d'autres news?
Mais si, il y en a d'autres. Ben, en fait, dans les autres, c'est plutôt genre signaler des choses qui sont passées dans les dernières semaines. Mais bon, évidemment, il y a eu la nouvelle bande-annonce de Star Wars The Force Awakens.
Encore une autre?
Quoi? Tu ne l'as pas vu, quoi?
Mais non, même ça, il y en avait déjà eu deux.
Il y avait eu un teaser et ensuite il y avait un premier teaser, il y avait eu un deuxième teaser et là ça c'est la bande annonce officielle.
D'accord. Voilà.
Donc c'est ça. Et
ça sort évidemment quand, déjà
ça sort le 18 décembre si je me trompe
Star Wars
pas.
Sort le 18 décembre. Ouais. Oh là là, il va y avoir des files d'attente.
Tu te rends compte, on va voir un Star Wars cette année.
C'est ça. Peut-être l'année prochaine.
Ouais. Non, j'irai certainement pas le voir les premières semaines, ça va être l'horreur, mais je compte bien le voir cette année.
En fait, j'avoue que j'aimerais bien le voir le jour qui sort. En fait, j'aimerais être dans une bulle.
Ben, tu peux réserver ton ticket en ligne, ça y est, tu peux le faire.
Non, mais ça doit être déjà vendu, oublie ça.
Et en tout cas, ils ont crashé là, parce que.
Non, c'est plus oublie ça.
Parce qu'à la fin de la bande-annonce, donc t'avais le lien pour aller acheter des tickets en ligne direct, et paraît-il qu'ils ont crashé les serveurs directement, tellement il y a eu de demandes.
Non, mais c'est parce que c'est comme, t'as envie de le voir sans avoir tout ce qui va venir après de commentaires, tu sais. Donc, comment s'isoler pour pas savoir ce que les gens vont dire? Tu sais, c'est comme impossible. Je veux dire, c'est le seul film que c'est impossible de faire ça. Moi, il y a plein de films que je vois dont tout le monde en a plus ou moins parlé, mais parce que je n'étais pas présente sur les médias sociaux, je sais pas c'est quoi. Je rentre puis j'ai du plaisir sans me faire gâcher le... Bon, j'avoue que j'aime pas trop me faire gâcher un film par des commentaires.
Non, moi non plus. Mais je connais quelques personnes qui, pour l'instant, ont réussi à éviter toutes les bandes-annonces et tout ça, qui ont la force de résister, tu sais. À l'envie de voir les bandes annonces.
Non, ben quoi, là, comme la semaine que Star Wars vont sortir, ils vont se promener avec un masque sur la tête puis des espèces de trucs dans les oreilles voyons, c'est impossible.
Ça va être dans tous les journaux,
Impossible. Tu vas avoir un gros titre qui va dire fiasco ou succès ou tu vas savoir tout de suite si c'est bon ou c'est mauvais, là.
Ouais.
On parie-tu sur fiasco ou succès? Moi, j'aurais tendance à dire.
Je vais dire succès d'emblée, mais.
Ah non.
Je veux dire, non, mais oui, c'est inévitable.
Non, mais succès dans le sens, est-ce que ça va être bon ou comme le
Star... succès critique, tu veux dire?
Succès des fans, là, les critiques, je m'en fous. Là, genre, écoute, on sait très bien que épisode 1, 2, 3, ça a été.
Une catastrophe.
Catastrophe. Tout le monde a haï ça.
Mais tout le monde l'attendait. Je veux dire, après avoir vu la bande-annonce, tout le monde l'attendait, ce film.
Mais je
Puis
sais.
Tout le monde était présent le jour de la sortie.
Mais c'est la même chose avec ça maintenant, ouais. Tu sais. C'est
mais là, j'ai comme bon espoir. J'ai bon espoir, oui.
Bon, parlons-en pas trop parce que là, on a un film à critiquer.
C'est vrai.
C'est un film court.
Puis, puisqu'on parle de Star Wars, il y a aussi la série animée Star Wars Rebels dont j'ai parlé déjà plusieurs fois puis qui est de retour là, sur Disney XD ou par d'autres moyens plus ou moins legit. Donc, non, personne ne fait ça.
N'encourage pas ces choses-là.
Non, j'encourage absolument pas ça. Chose est-il que la saison 2 a commencé depuis quelques semaines, depuis 2 ou 3 semaines, un truc comme ça. Enfin, il y avait eu le premier épisode en fait de la saison qui avait été diffusé comme tout seul, comme un espèce de standalone, c'est un espèce de téléfilm d'animation en fait. Et puis là, depuis quelques semaines, bah il y a la suite de la véritable saison 2 en fait qui est partie. Puis c'est toujours aussi fun, c'est toujours aussi bien. Moi, j'adore.
Bien.
Et si vous connaissez pas, allez-y, précipitez-vous. C'est super. Voilà. Après. Bon, je sais que les zombies, on a toujours cette discussion, genre, est-ce que c'est de la science-fiction
non,
ou pas?
Moi,
je mets ça dans la science-fiction
non,
parce que je vois
pas,
ça
non,
comme
non,
une dystopie.
Hein? Non, tu peux, c'est pas une dystopie. Je veux dire, ça rentre dans l'univers du fantastique. C'est clairement du fantastique.
Ouais,
il y a
je pas, sais
pour
pas.
Qu'il y ait de la science-fiction, il faut que tu aies une proposition scientifique sur le futur. Il faut que ça ait rapport au futur.
Non, mais je veux dire, on parle d'une apocalypse, on parle d'un monde post-apocalyptique après une apocalypse zombie. Tu sais.
Non,
donc,
non
c'est
mais
pour ça que moi, je...
un monde post-apocalyptique, ça serait un futur qui serait créé par quelque chose de possible. Le zombie, c'est carrément une affaire fantastique, c'est pas possible.
Non, mais la notion d'une épidémie
oui, mais là,
qui décime le monde.
Raconte-moi un film d'épidémie. Dès que tu mets des zombies là-dedans, t'es dans du fantastique. C'est clair. Donc, on passe au prochain sujet. On peut pas parler de zombies.
Ah non, mais c'était pas pour remplacer. C'était juste pour faire allusion à Walking Dead qui est aussi de retour.
Mais mettre des zombies dans l'espace, c'est un élément de science-fiction à la limite.
Et puis, je vais même mettre un truc d'horreur parce que je veux absolument en parler, mais il y a.
Moi, je suis une puriste pour la science-fiction. Là.
Je sais.
Si c'était juste de moi, frère, que
moi, je fais des petits. D'ailleurs,
on parle de Star Wars, puis c'est même pas de la science-fiction, c'est du fantastique.
Non.
C'est vrai. Star Wars, c'est du
space opéra.
C'est du space opéra qui se passe dans une galaxie il y a très longtemps. Tu sais, même pas dans le futur. Je te rappellerai. Moi, je m'en rappelle.
Ah là là. Voilà. Puis, pour les amateurs, parce que j'aime bien faire la petite parenthèse juste parce que j'aime ça. C'est de l'horreur, c'est pas la science-fiction, mais il y a Ash vs. Evil Dead qui vient de commencer sur Stars. Et étant un gros, gros fan de la série Evil Dead, c'était juste pour la signaler parce que c'est trop bon. Voilà.
Bon.
Voilà.
Sinon,
je voulais juste aussi parler de cette série dont je t'ai parlé, je pense, The Chair. Je t'ai parlé de ça. C'est une série documentaire que j'ai découverte tout récemment parce que j'ai entendu en entrevue les producteurs de la série. Non, mais attends, non, mais parce que ça concerne. Non, parce qu'on parle de cinéma, puis ça concerne le cinéma.
Ok.
Surtout le cinéma indépendant.
Aussi.
Et donc c'est une série, c'est aussi la chaîne Stars qui a produit ça. Ça date de 2014 et il y a eu la première saison en 2014. J'espère qu'il va y avoir une deuxième saison prochainement, je ne sais pas. Je l'ai trouvé pour 10 pièces sur iTunes, 10 épisodes d'une heure. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est une série, c'est pas de la télé-réalité, c'est véritablement une série documentaire dans le sens où tout ce qui se passe est vraiment vrai, il n'y a rien qui est scripté. Le principe de la série, c'est qu'il y a deux jeunes réalisateurs qui ont été choisis pour réaliser leur premier long métrage.
Ah oui, tu m'en as parlé.
À partir du même scénario. Et ils sont très différents. Il y en a un, c'est une star de YouTube, tu sais, qui fait de la comédie raunchy, comme on dit en anglais, tu sais, de la comédie grasse, tu sais, pipi caca, tout ce que tu veux. Et l'autre, par contre, qui est beaucoup plus rom-com traditionnel. Et donc, ce qui est super intéressant, c'est que je trouve que c'est une série qui est vraiment comme une référence sur la manière dont tu fais un film et toutes les non seulement les étapes à travers lesquelles tu dois passer, mais toutes les émotions, toutes les choses que tu vis pendant la fabrication d'un film en tant qu'un jeune réalisateur. Puis voilà, je trouve que c'est une belle ressource en fait pour ceux qui veulent se lancer là-dedans.
Je trouve que c'est relativement pertinent à la science en général, mais très pertinent au film dont on va parler bientôt.
En plus.
Je vais te faire ce lien-là.
En plus, ben oui, parce qu'on parle de cinéma indépendant. Donc,
et de premier film.
Et donc, sauf que là, évidemment, ils ont plus de moyens dans le sens où ils ont quand même un budget assez consistant de gens autour de 850 000, un truc comme ça.
Ah, les chanceux.
Donc ils ont été choisis pour tourner ce film. Ils tournent le film en même temps à Pittsburgh. Alors qu'ils se connaissent absolument pas, les deux, ils savent qu'il y en a un autre qui fait un film, tu sais, à partir du même scénario. Mais enfin bon, donc c'est super intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est le fait que il y a constamment des références à la situation qu'ils sont en train de vivre, dans le sens qu'ils sont entourés par des caméras tout le temps pour le show. Le making du show lui-même fait partie de l'histoire aussi, dans le sens qu'il arrive un point où ils ont des difficultés financières, pareil, etc., etc. Enfin bon. Toutes ces choses-là font que j'ai trouvé que c'était une série, j'ai complètement accroché dès le début. J'en avais entendu parler sur le Slash Filmcast, où j'en avais entendu des entrevues des producteurs. Enfin bref, donc c'était super intéressant et voilà, je le recommande à n'importe qui veut se lancer dans le film indépendant et qui, enfin bref, voilà,
très bonne série. Qui cherche à s'inspirer.
Ouais. Puis, avant-dernière petite plug. Non, la dernière, c'était juste faire un petit mot sur The Martian que j'ai vu l'autre jour et que j'ai trouvé très très bon. Ouais.
C'est bien?
C'est très très bien, ouais.
Ok.
Beau retour en forme de Ridley Scott. Je trouve que dernièrement, Ridley Scott s'est laissé un peu aller. Enfin, c'était plus le Ridley Scott qui me charmait de l'époque.
Il avait fait Prometheus, puis après, qu'est-ce qu'il avait fait depuis?
Qu'est-ce qu'il y a eu depuis? Je me rappelle même pas pour dire, tu sais, mais des choses qui m'ont pas vraiment parlé. Mais là, contrairement à Prometheus, c'est complètement maîtrisé. J'avais jamais lu le livre The Martian. Là, évidemment, on ne parle pas de film indépendant. Hein. C'est du gros, gros film de science-fiction à gros, gros, gros budget.
Ridley
mais
Scott,
c'est vraiment bon. C'est extrêmement bien joué. C'est bien mis en scène. C'est léger. Tu sais, c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. En fait. Il y a un côté très léger dans ce film.
Il avait fait The Counselor.
The Counselor, ouais.
Exodus, Gods and Kings.
Ah oui, Exodus, ouais, c'était ça.
Puis The Martian.
Ouais. En tout cas, je recommande, surtout si tu as l'occasion de le voir en IMAX, ça vaut vraiment le coup.
Il était à Toronto, puis j'ai passé à deux doigts d'aller le voir, mais non.
Bah en tout cas, vas-y, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment
oui, c'est sûr que je vais le voir, étant fan de Ridley Scott.
Et puis, dernière petite plug que j'aurais dû faire la semaine passée. J'ai menti la semaine passée, j'ai dit que j'avais pas de plug, alors qu'il y en avait une que j'ai honteusement oubliée.
La semaine passée,
excuse-moi, l'épisode, j'aurais voulu que ça soit la semaine passée. Ça, c'est mes rêves les plus fous, tu sais, qu'on arrive à faire un podcast hebdomadaire.
On a tellement pas arrêté depuis la dernière fois qu'on se voit, c'est la semaine dernière qu'on s'est vu.
Donc, la fois passée, le dernier épisode, il y avait un ami, un fidèle auditeur du podcast, qui est Steve Lévesque, qui m'avait envoyé un lien vers... et là aussi, je trouve intéressant d'en parler parce que c'est du pur film indépendant, pas de budget, tu sais, homemade et tout. Et donc, excuse-moi Steve, j'avais menti la dernière fois. Enfin, j'avais menti. J'avais comme oublié que tu m'avais envoyé cette plug. Puis donc voilà, je la fais cette fois-ci. En plus, elle est plus à propos cette fois-ci, finalement. C'est sur une série de films qui s'appelle Les Chroniques de Giant Moonshadow. Et c'est un papa et son fils qui ont... En fait, c'est un papa qui a décidé de faire des films pour montrer à son fils comment ça se fait, les films, et que ça se fait pas juste comme ça, que ça prend du temps, du travail, de l'écriture, tu sais, des costumes, des machins, de ci, de ça. Et puis, à travers cette démarche, ils ont fait une série de films. Alors, c'est sûr que c'est complètement amateur, mais moi, j'ai toujours beaucoup admiré les gens qui ont un projet puis qui vont au bout de leur projet puis qui se donnent complètement, même si c'est super amateur, c'est pas grave, c'est juste l'énergie qu'ils ont mis dedans.
C'est ce que je veux dire, c'est comme quand j'écoutais le Dîner de cons. Le con, c'était le gars qui faisait ses petits trucs en bâton, puis c'est pour ça qu'il était considéré comme un épais. Mais moi, j'avais toujours trouvé ça cute. Je suis comme, il est autistique, c'est ridicule, mais il va au bout. Il n'y a pas de but en soi au hobby, à la chose.
Mais il va au bout de son truc.
Donc, c'est un peu le même principe. C'est comme, tu ne fais pas ça parce que tu veux devenir cinéaste, tu fais ça parce que tu veux t'amuser. Puis
exact. Cool. Puis là, donc c'est clairement un truc de famille. T'sais, ils font ça tous ensemble avec la famille puis des copains. Et avec des effets spéciaux qu'ils font maison sur leur laptop, je sais pas quoi, mais c'est cool. J'ai pas pu voir les films en entier, mais j'ai vu quelques extraits. Il y a des bandes annonces que tu peux voir en ligne. On mettra les liens, bien sûr, vers leur site et tout ça. Et je sais pas s'ils font toujours des trucs, mais je veux dire, ils en ont fait un paquet de ces films. Et tu sens qu'ils s'amusent complètement, quoi. Mmh. Ils s'amusent, ils font leurs aventures de ces personnages qui vivent sur une autre planète ou Dieu sait quoi avec. T'sais. Et c'est de l'aventure et c'est fun et je trouve que ça vaut le coup d'en parler. Merci encore Steve pour cette petite plug. C'est toujours chouette de voir des gens comme ça qui se donnent. Et puis,
j'avais vu passer l'info, mais oui.
Ouais, c'est ça. Donc voilà. Voilà pour les plugs cette fois-ci. On peut passer à...
Primer.
Donc, enfin. Petit extrait avant de commencer ou tu nous fais la description du film?
Un petit résumé d'abord, puis un petit extrait après.
D'accord.
Alors, Primer, donc c'est le résumé de Wikipédia que j'ai honteusement copié.
Comme d'hab.
Dans une banlieue pavillonnaire américaine, un groupe de 4 ingénieurs passe leur temps libre à construire une machine capable de réduire la masse des objets. 2 d'entre eux, Aaron et Abe, découvrent par hasard une application inattendue de cette machine, la possibilité de revenir dans un passé proche. C'est alors qu'ils pensent pouvoir tirer profit de leur invention en anticipant les cours de la bourse. Mais les choses peuvent leur échapper.
There's an AN and there's a BN. Okay, let's say the AN is 12 o'clock, the BN is 12:01. All right, we start the machine with the Weeble at the AN. It travels forward normally.
You gotta write this down.
Aaron, there's nothing to write down.
Well, then I'm writing it.
Okay, fine. Look, it travels forward normally towards the BN. And when it gets there, the feed runs down parabolically until it's just stopped. But it doesn't. It curves back around towards the AN. And when it gets back to the AN, now curve that around. Okay, now the Weeble has experienced a total of 2 minutes. And again, It curves
parabolically.
Right. So it comes back around again, and it does this about 1,300 times, and when it finally exits on the BN, it's traveling an odd number of forward and backward trips.
Oh, what is so special about 1,300? And why is it about 1,300? Why isn't it exact? This is not empirical.
Give me that. Okay, I don't know why it's not exact. There's some sort of probability there. Okay, every time it hits the BN, there's a chance, okay, a small chance it won't curve back around towards the AN, and for some reason it takes about 1,300 trips before it finally does. But it does have to exit, or else we wouldn't be able to see it afterwards. Okay, let's take a look at this. Yep, 22 hours, 14 minutes.
13, 34 minutes.
Even.
Alors, toi non plus, t'avais pas vu ce film avant?
Ben non, la première fois que j'ai vu ce film, c'est en pièces détachées dans les 2 dernières semaines, parce que j'ai été, pour faire changement, assez occupée. Et je te dirais que... Tu veux savoir ma première impression du film?
Ben clairement.
J'ai trouvé que c'est un film... J'hésite en différentes dénominations parce qu'il y a plusieurs choses. Je pourrais te donner peut-être 3 impressions que j'ai du film. Je dirais que ma première impression, ce serait que c'est un film extrêmement prétentieux.
Oh,
donc,
c'est intéressant. C'est
extrêmement prétentieux. Ça, avec une sorte de... Oui, ce serait la prétention. Je pourrais vous l'expliquer... Après, ensuite, c'est un film qui a, dans ses qualités, je pense qu'il y a une sorte d'authenticité qui est intéressante, une recherche d'authenticité, peut-être plus qu'une authenticité, qui est rafraîchissante. Puis c'est un film absolument incompréhensible. Clairement incompréhensible. Totalement incompréhensible. Merci Wikipédia parce que j'aurais été obligée de voir le film 2 fois et ça ne me tentait pas. Je n'avais pas envie de donner à ce film-là une deuxième écoute parce parce que je me suis sentie. Je me suis pas sentie respectée en tant que spectateur. Voilà, tu sais, mais donne-moi ton impression du film puis j'en pourrai en parler. Puis ceci dit, ce n'est pas parce que j'ai trouvé que c'est un film mauvais ou whatever.
Ah ouais, non, c'est première impression.
Il y a des choses intéressantes dans ce film-là. Il y a plusieurs qualités à ce film-là. Qui malheureusement sont perdus dans une arrogance puis une prétention du réalisateur qui a décidé de mépriser son public, selon moi.
OK, bon, c'est intéressant comme point de vue.
Volontairement, il le dit lui-même. Donc voilà.
Il le dit lui-même.
Je veux dire, oui, il a voulu rendre ça incompréhensible.
Ouais, ça, c'est vrai.
Il y a une volonté de rendre ça incompréhensible Et je dirais que après ça, mais il y a des choses qu'il a fait que je trouve que c'était une bonne idée de le faire. Tu sais, c'était intéressant qu'il le fasse. Mais en fait, dis-moi ton avis, je vais t'expliquer pourquoi je dis que je trouve que c'est prétentieux. Vas-y. Okay. J'espère pas le perdre là, parce que l'idée se forme dans ma tête.
Non, c'est cool. Vas-y. Ok, comme j'ai dit avant, je l'avais jamais vu non plus, mais j'en avais beaucoup entendu parler. Enfin, chaque fois que quelqu'un mentionnait Primer, c'était genre Primer, c'est génial, machin. Je suis là, ok, cool. J'avais aucune idée de ce que c'était. J'étais pas au courant que c'était un film indépendant avec un budget ridicule. Mm-hmm. J'avais aucune idée de rien. Fait que c'était la complète nouveauté, quoi.
Oui, c'est ça. Faudrait pas oublier de lui donner ça, son budget ridicule.
Je pense qu'avant de voir le film, j'ai comme juste lu IMDb. Genre, rapidement, je suis passé, tu sais, dans la fiche IMDb. Puis j'étais là, je vois budget 7 000 $. OK. OK, all right. Bon, d'accord. OK. Alors, je trouve ça. Puis je commence à écouter ça. Et là, au bout de 10 minutes, j'étais là, mais je comprends rien à ce qui se passe. Je comprends strictement rien. C'est quoi ce truc? Est-ce que c'est un documentaire? Est-ce que c'est un... Vu ce style, tu es très...
Très télé-réalité.
Ouais, il y a un petit côté...
Cinéma-vérité, je veux dire.
Oui, cinéma, voilà, cinéma-vérité, c'est ça que je cherchais. Cinéma-vérité.
Télé-réalité.
Tourné en 16 mm. Enfin, tu sais, donc...
Je trouve ça drôle d'avoir dit télé-réalité, parce que c'est comme cinéma-vérité, télé-réalité, ça a comme pas... Ça peut les opposer du même genre, mais oui.
Ouais. Puis, donc je me suis dit, OK, bon, c'est, je ne comprenais rien du tout. J'étais là, waouh, j'espère que ça va s'éclaircir un petit peu pendant le film, parce que là, c'est vraiment, je ne comprends rien. Je ne sais même pas ce qu'ils sont en train de faire au tout début du film.
Quand est-ce que tu as décidé que tu ne comprenais rien au film? Parce qu'à un moment
au bout de, c'est au bout de 10 minutes. Enfin, c'est-à-dire que dès le début, je me dis, OK, je ne comprends rien, mais bon, ils vont venir quelque part. T'sais. Puis au bout de 10 minutes, je me dis, OK, je ne comprends vraiment rien du tout. Je me suis dit, est-ce qu'il faut que je me trouve une version sous-titrée pour comprendre ce qu'ils disent? Parce que c'était même dans les termes qu'ils emploient, je comprenais mal.
Tu fais comme moi, à un moment donné, moi j'ai mis pause, puis je vais aller lire la description sur Wikipédia parce que je ne suis pas sûre d'avoir compris ce que je comprenais.
Il y avait ce que j'avais lu dans IMDb, sur IMDb en fait.
Ouais.
Je m'étais évité tout spoiler. Mais après, c'est ça. Non, j'ai laissé sa chance au film, quand même. Mais, arrivé au milieu du film, je comprenais toujours mal ce qui se passait. Enfin,
Quand est-ce que tu as eu de la compréhension du film? Parce que moi, je m'excuse, j'ai arrêté à moitié, puis je suis allé voir sur Wikipédia.
Okay,
j'ai lu ce qui... Ouais. Ben oui, c'est impossible de comprendre. Puis là, j'ai vu le diagramme.
Je pense que c'est quand... Ouais, il y a l'histoire du diagramme. Mais en fait, je pense que c'est au moment où... Bon, au début, je comprenais qu'il y avait une histoire de masse d'objets qui étaient différentes, machin. Et après, il y a eu l'histoire... Mais ça a été dur à comprendre, mais j'ai fini par comprendre qu'il y a eu le phénomène du retour dans le temps. Enfin, le phénomène que, tu sais, OK, ils ont seté l'heure, ils ont seté le chronomètre ou l'heure à telle heure, puis qu'elle est revenue en arrière, puis alors après, il part dans une histoire de calcul dans tous les sens, tu sais. Enfin, c'est vrai, comme tu dis, il complique la chose terriblement. Mais du coup, je suis resté accroché. Je me suis dit, mais où ça va aller, cette affaire? Et après vient l'histoire des doubles, etc. Enfin, donc bon, et là
ce bout-là, là, j'ai toujours pas tout sûr d'avoir tout compris.
Non, moi non
là.
Plus. Mais je l'ai vu deux fois le film.
Ouais, mais
j'ai vu deux fois le film.
Je suis sûre que t'as vu le film deux fois. Puis moi, je te le dis, ça m'a fâché. Je me suis dit, faudrait que j'écoute deux fois. Puis j'ai dit, je refuse. C'est un refus politique de voir le film deux fois.
Je l'ai pas pris comme un film arrogant, mais oui, incompréhensible, oui. Mais ceci dit, je suis quand même resté accroché jusqu'au bout. Il y a quand même, j'étais intrigué.
C'est ses qualités au film. Parce que ses qualités au film.
Ça ressemble à rien d'autre. Il y a un espèce de truc très réaliste.
Écoute, moi, je sais pas que j'ai haï le film, c'est juste que ça m'a énervé au plus haut max. Parce que je vais t'expliquer pourquoi je trouve ça prétentieux.
Okay.
Je veux dire, la prétention, c'est que c'est faussement. Ça laissait faussement te faire sentir que le gars qui a écrit ça, il est intelligent puis qu'il comprend les affaires de voyage dans le temps mieux que n'importe qui. Mais c'est une gimmick comme tous les autres films de voyage dans le temps. C'est une gimmick. Clever, il y a quelque chose de cute dans son petit truc, ça j'avais ça. Puis il aurait pu se servir de sa petite gamette clever et cute pour nous faire un vraiment très très bon film. Moi je ferais un remake de ce film là si je pouvais là. Peut-être que je vais pouvoir un jour, je vais peut-être être une grande productrice, je vais aller le voir, je vais l'engueuler puis je vais y acheter les droits de son film. Mais peut-être que en fait non, je vais compter sur le fait qu'il parle pas français pour écouter ce podcast là. mais c'est parce que ceci dit, je pense que des fois on déteste les choses qu'on aurait aimé adorer aussi. Ça va ensemble, tu sais. Je veux dire, l'affaire qui m'agace, c'est que moi j'avais entendu dire que c'était comme genre le film sur le voyage dans le temps le plus réaliste possible. C'est pas réaliste le voyage dans le temps. C'est comme
le concept est
un des plus difficiles à maîtriser. Ce que c'est vrai, une des qualités qu'il y a, c'est qu'il travaille beaucoup dans le paradoxe, tu sais, à la fin. Puis c'est tellement compliqué. Puis c'est ça qu'il l'a dit. Ça, c'est peut-être pas bête. Il dit, à la fin, je veux rendre ça tellement compliqué parce que je veux montrer que ça n'a juste pas de bon sens. Puis ça, c'est un gars intelligent, okay, qui a fait ça, tu sais. Mais au point où est-ce qu'on comprenne rien au film, tu sais, puis qu'il nous faut que j'aille sur Wikipédia voir le diagramme pour me dire « Ah, c'est ça le film », je pense qu'il a été trop loin dans son idée parce que ça aurait pu être juste au bon niveau où est-ce que oui, à la fin, ça devient compliqué puis qu'on sente cette espèce de complexité-là du double qui est créé puis qui s'auto-sabote, qui est un petit peu artificiel à un moment donné. Tu te dis, coudonc, ils construisent des machines sans arrêt. Mais bon, tu sais, oui, ça va dans l'idée que c'est régressif, que c'est récursif, là, qu'il y a comme un gars dans l'histoire, puis que ça n'arrête pas, tu sais. Donc, il y a un gars qui revient toujours en arrière. Mais, enfin, bref, c'est le fun, un truc de voyage dans le temps à courte durée, tu sais, genre, c'est 6 heures qu'ils font, c'est pas, tu sais, c'est comme une journée, tu sais, il y a plein de petits trucs vraiment intéressants là-dedans. L'idée qu'il faut que tu tu dormes dans la machine pour revenir dans le temps, le nombre de temps, ça amène aussi des implications. Tu sais, moi, je réfléchissais, ouais. Je me disais, mais là, ils vont vieillir plus vite, tu comprends? Tu sais, parce qu'en tant qu'ils sont là, tu sais, il y avait des choses intéressantes. Son idée est le fun, tu sais, puis c'est probablement... ça m'étonnerait pas que c'est un truc que si on livre des livres de science-fiction, ça a été peut-être pas, là, mais je veux dire, c'est probablement un concept qui est travaillé dans la culture de la science-fiction en général. Mais tu sais, comme tu le dis, les dialogues, on les comprend pas. Pas parce qu'on comprend, on maîtrise pas l'anglais, toi puis moi, c'est parce qu'il fait exprès. Non, le son des bruits de fond, son montage sonore est fait pour obscurcir les dialogues. Puis pourquoi je l'ai remarqué, c'est parce que je suis en train de produire un film en ce moment avec une réalisatrice qui veut faire ça. Elle le fait de façon expérimentale. Puis j'ai ressorti des films de Jacques Tati. De Jacques Tati, carrément. Et réécoute un bon vieux film de Jacques Tati. C'est ça, c'est génial, Tati. Mais dans Tati, c'est que c'est poétique. C'est qu'on te crée une ambiance. Il n'y a rien à comprendre dans un film de Tati. Tout est absurde. Puis le gag vient de justement de ces gens-là qui se parlent, mais que c'est perdu dans les gens qui marchent puis les portes qui ferment. Mais moi, j'ai eu l'impression d'écouter un film de Tati parce qu'il faut. T'étais comme. Tu peux pas. Ton cerveau
sauf
peut pas.
Sauf que tu riais pas.
non, sauf que je souriais pas ou j'étais pas charmée. Puis ton cerveau. Donc, à un moment donné, ça faisait très documentaire, ça faisait très... vous regardez la réalité, mais au sacrifice de son intrigue, tu sais. Puis tu sais, son espèce de voix-off qui était vraiment mauvaise, là, le gars qui faisait la narration.
Ouais, ça, c'est tout, un truc qui m'a dérangé aussi.
C'était nécessaire pour expliquer, mais le gars qui la faisait était...
Ben, c'est lui-même, je suppose.
Ben, je sais pas, mais il y a
tout... Oui, c'est lui-même.
Ben, il était pourtant bon acteur dans... Il était correct acteur dans son... Ouais. Les deux acteurs... Pour entrer dans les qualités du film, on pourrait y aller au niveau de... Tu fais qu'il y a 7 000 $, comment c'est joué, c'est monté, le tournage, la qualité... Tu sais, tout est intéressant. C'est quelqu'un qui est brillant, là, qui maîtrise, qui connaît son cinéma. C'était pas... Il y avait beaucoup d'idées. Il y avait peut-être trop d'idées. C'est un premier film, ça arrive, tu sais. Mais ça, c'est choquant.
Bon, l'ambition dont tu parles, ou pas l'ambition, mais l'arrogance dont tu parles, c'est marrant parce que c'est quelque chose qui arrive relativement fréquemment dans les premiers films. Si tu sais, les gens qui font un premier court-métrage, qui veulent absolument avoir un message super... quelque chose de... C'est un truc...
C'est un truc de gens qui veulent tout faire par eux-mêmes.
C'est un truc de premier film qui arrive relativement souvent.
Tu sais, c'est le gars qui a une bonne idée, mais qui prend 7 000 $ des chums, puis qui le fait, puis transforme ça en long métrage. Puis pour moi, je suis sûre que cette personne-là est folle, tu sais, puis qui est probablement quelqu'un d'extrêmement difficile à travailler, d'où l'explication pourquoi il n'a pas fait un film après 10 ans, je pense. Il a pris 10 ans, c'est le deuxième film. Puis on s'entend. Un film qui était à Sundance, qui a quand même eu. T'sais, un premier film qui a eu autant de prestige que ça, t'amènerait un deuxième film assez vite. Il n'y a aucune raison pourquoi il n'a pas fait un deuxième film rapidement. Ouais. J'avais lu, c'est qui disait, c'est Soderbergh qui a dit que c'était l'enfant illégitime de David Lynch puis James Cameron.
De James Cameron?
Oui, j'adresse ça très, très drôle, mais ça a un petit côté, genre, effectivement, c'est quelqu'un qui est extrêmement talentueux puis qui pourrait faire probablement un film vraiment... Ce film-là, là, il est à deux doigts d'être un chef-d'œuvre, mais ça ne l'est pas parce que tu sens que quelqu'un qui était comme trop arrêté sur lui, tu sais, il avait comme son, tu sais, il joue dans le film, il fait tout, il fait la musique. Donc c'est tout lui ce film là. Puis je m'excuse, un film qui dit au public tu ne me comprendras pas, c'est quelqu'un qui ne veut pas communiquer avec son public. C'est quelqu'un qui veut garder une forme d'hermétisme, tu sais. Parce que c'est ça, ce film-là. C'est impossible de le comprendre. Puis c'est ça, je me dis, si tu l'analyses, si tu t'amuses à analyser le film, puis à le décortiquer, tu te rends compte que la gimmick, elle n'est pas si... Tu sais, quand tu vois le diagramme sur Wikipédia, puis tu commences à voir, il n'y a rien. Tu sais, je veux dire, il escamote la science là-dedans. Là. C'est comme ils sont en train de faire des trucs de super, super conducteurs. Ils essaient de faire une machine X, puis ils découvrent autre chose par hasard. Puis ça, c'est brillant. C'est ça que j'aime. Ça, cette partie-là, j'aime. Ça.
Ouais, moi, j'ai bien aimé ça aussi.
Le petit côté, les gars dans leur garage, qui essaient de faire des recherches. C'est fait avec du duct tape. C'est pas des trucs super techno. Ouais. Ça marche tout
proche. En fait, tu sais pas vraiment à quoi sert leur machine, mais tu sais, tout à coup, leur machine... Tu sais, tu découvres une fonction comme complètement inattendue de leur machine, qui est le retour dans le temps, qui d'ailleurs, ils ne mentionnent jamais ce nom-là, tu sais, ils n'en parlent jamais en tant que tel.
Ouais.
Moi, c'est ça, en fait, c'est tout ce côté-là que j'ai trouvé super intéressant, que j'ai trouvé super intriguant. C'est pas... Ouais, c'est ça. C'est sûr que c'était perdu dans des dialogues super lourds. À mon avis, je pense que le fait que les dialogues sont incompréhensibles, quelque part, c'est une manière de rendre la chose Réaliste, c'est fort comme mot, mais oui, dans le sens où ça prendrait ça, ça prendrait des calculs et un jargon physique et enfin un jargon scientifique qu'on serait incapable de comprendre.
Non, mais ça c'est vrai. Puis c'est vrai que ça me plaît, cette partie-là, j'avoue, me plaît parce que j'haïs ça quand je vois un film de science-fiction où est-ce que ils vont expliquer d'une façon bébête des affaires.
Ouais,
le bout dans Inception qui m'énerve le plus, c'est le bout qui explique toute son histoire de rêve dans le rêve et machin. Puis il est en train d'expliquer le mécanisme.
C'est vulgariser,
Non, je dirais pas vulgariser, je dirais expliquer. Parce que vulgariser, ça serait prendre un concept vrai, complexe, puis l'expliquer
de manière très simple.
L'expliquer amener quelqu'un qui n'aurait pas. C'est d'éduquer, vulgariser.
Alors que là, en fait, c'est d'essayer d'expliquer quelque chose qui est juste pas possible.
Ouais, qui n'est pas possible, qui n'est même pas. Tu sais, c'est comme. La science-fiction, ça frise la fantaisie, là. Mm-hmm, tu sais, je veux dire, comme Inception, c'est clairement de la fantaisie. Il n'y a rien de scientifique dans son idée du rêve, dans le rêve, dans le rêve, dans le rêve, qui te ramène dans le fond du coma.
Et pourtant. Je trouve ça cool.
C'est sûr que Christopher Nolan, tu vois, Christopher Nolan, il a le talent d'être. Il veut pas perdre son public, tu sais. Il veut que son public comprenne assez, donc il a créé son petit truc compliqué.
Ouais.
Mais il a pris le temps de l'expliquer, puis c'est vrai que c'est un peu agaçant quand il explique, mais au moins, quand on regarde le film, on est comme genre, oh mon Dieu, il s'en va dans le rêve, puis là, ça va passer le temps, puis le temps va être un peu plus long, puis là, t'es dans le suspense, tu comprends ce qui se passe, quoi. Tu sais, dans ce film-là, t'aurais pu avoir tout ce suspense-là, toute cette histoire-là, toute la compréhension du film, parce que moi, en lisant Wikipédia, je trouvais ça plus intéressant. Je revenais, j'étais comme, que c'est ça, je comprends pas. Là, j'arrêtais le film, j'allais lire ce que je faisais, en fait, j'écoutais le film en tranche de 10 minutes.
OK.
Puis là, j'arrêtais. Après, puis là, j'allais lire la phrase qui décrivait le 10 minutes que j'avais eu. Puis j'étais comme, OK, ouais, je pense que j'avais compris ça. Comme à la fin, l'histoire du gars, le spoiler, avec le gars, là, je me sens, ça sort d'où, cette histoire-là?
Ouais, ça, j'ai pas compris d'où ça sortait tout à coup, cette affaire-là.
Puis là, en lisant Wikipédia, ça a comme commencé à faire du sens. T'sais.
Ouais, mais même, j'ai trouvé étrange que tout à coup, il nous balance ça.
Mais en même temps, c'est hyper brillant. Sais-tu, je vais t'expliquer pourquoi c'est hyper brillant?
Vas-y.
Parce que c'est l'histoire du thriller du film qui a complètement effacé. Tu comprends? Je veux dire, il a fait un film. Tu sais, c'est presque un film expérimental qu'on a vu. Hein? OK, ouais. Le gars, il me dit qu'il fait un film expérimental. Je l'aime un petit peu plus. Tu sais, je veux dire, si on va s'asseoir avec, puis j'ai avoir une conversation. Il m'a provoqué, ce film-là. Tu vois comment je suis, là? Je suis toute énervée.
Ouais.
Mais il y a clairement des non-respects des règles narratives parce que ce film-là aurait pu être justement. Christopher Nolan, il aurait fait son histoire. L'histoire du gars avec le gun, ça aurait été la première scène, puis tu aurais tout compris, puis ça aurait tout été au sujet de la fille qui va peut-être se faire tuer, qui est leur amie.
Ouais.
Parce qu'en fait, dans cette histoire-là, c'est qu'il essaie de se rendre intéressant à la fille. Lui, il a complètement effacé cette histoire-là, il l'a mis en périphérie, tu sais, en disant que c'est une des possibilités d'avoir les voyages dans le temps, ils ont pu faire ça et tout, ils ont leur petit moment, comme ils appellent Groundhog Day, où est-ce qu'ils reviennent constamment, puis finissent par être capables de maîtriser le gars avec le gun parce qu'ils voient tout ce qui se passe, puis c'est comme bizarre, là. Tout est bizarre là-dedans, tu sais.
J'ai peut-être pas une réaction aussi viscérale que ça, mais non, mais c'est venu me chercher quand même quelque part. J'ai quand même eu la... Tu sais, j'ai eu la volonté de le voir une deuxième fois et ça ne m'a pas dérangé de le voir une deuxième fois. Je l'ai compris un peu plus, pas vraiment. Mais, non, mais je veux dire, sachant où on allait, j'ai comme réussi à trouver les petites choses qui me plaisent le plus. C'est le fait que leur amitié est mise en péril parce que tout à coup, le personnage de Aaron, donc, qui est joué par Shane Carruth lui-même, décide de... C'est lui, en fait, qui
prend le contrôle.
Qui prend le contrôle de la chose, ouais. Qui était déjà revenu en arrière, qui réécoutait les conversations dans son oreille, etc., pour reproduire les mêmes choses. Enfin bref, donc tout ce côté-là, qui est intéressant, le problème que ça devient face à leur amitié, tu sais.
Mm-hmm.
Ça, j'avais trouvé super intéressant. C'est sûr que ça reste quand même super compliqué.
J'ai pas compris pourquoi le père de l'autre se ramassait dans la machine à un moment donné.
Non, ça, j'ai pas compris non plus. J'ai jamais compris ça.
Ça, j'ai pas compris.
Non, et puis ce que j'ai apprécié, c'est ça. C'est tout le côté où la machine, c'est un espèce de truc qui ressemble à rien, hein, avec des fils partout. Tu sais, un truc qui finalement pourrait exister. Tu sais, ça...
Non, fait avec du duct tape.
Non, mais ce côté justement, machine faite dans ton garage, tu sais, ouais, patentée avec des bouts de je sais pas trop quoi.
En même temps, je sais pas jusqu'à quel point les choses sont faites dans des garages. J'imagine que oui, Parce que les ordinateurs, le mythe, c'est le mythe de Steve Jobs puis Steve Wozniak
qui ont fait
le premier Apple
dans leur garage. Ouais.
C'est vraiment ça.
Non, c'est très ça, un côté très genre jeune ingénieur ou jeune.
Je sais plus si ça se fait comme ça aujourd'hui. J'ai l'impression que déjà les gens ils fabriquent plus rien. C'est-tu un autre film à quoi ça m'a fait penser, qu'on a vu, c'est Brainstorm.
Ouais. Ah oui, ouais.
Parce que dans Brainstorm, mais tu vois, Brainstorm, j'ai adoré.
Moi aussi.
Tu sais, parce que tu as le sentiment d'être avec des vrais scientifiques dans un laboratoire pas propre, etc., etc., tu sais. C'est le même feeling que ça. Ça, c'est réussi quand même, le petit côté.
Non, puis ouais.
Le petit côté, genre, on est des vrais créateurs.
Ouais.
Mais
j'aime bien, tu vois, OK.
Je trouve pas vraiment crédible. Parce que dans Brainstorm, il y a un vrai laboratoire quand même.
Ouais, puis dans Brainstorm, dès le départ, ils sont en train de travailler sur ce projet de monitoring des rêves, ou même d'enregistrer des rêves, tu sais, mm-hmm. et d'arriver ensuite à les rediffuser à d'autres patients.
Pas des rêves, mais des pensées, des émotions, des sensations.
Ouais.
Puis c'est fucking intéressant comme histoire. Excuse-moi, ouais. J'ai dit un mot.
Non, mais c'est très, très bon. Moi, j'adore ce film. Mais donc là, tu sens que oui, il y a une recherche. C'est genre, t'as le département de recherche de telle université ou de tel truc qui est en train de travailler là-dessus.
De telle compagnie qui est en train de travailler là-dessus, etc.
Mais là, ce que j'aime bien dans Primer, c'est le côté genre où c'est des jeunes. Des jeunes ingénieurs, des jeunes docteurs en physique, machin, etc., qui, en étant en train de travailler sur un projet, trouvent par hasard quelque chose. Okay, j'aime beaucoup cette idée-là.
Je trouve ça moyen crédible qu'ils le fassent dans leur garage. C'est vraiment un truc de start-up. Là. C'est vrai si tu fais du programme, c'est vrai si tu peux assembler des choses, mais là, c'est parce que c'est... Tu supposes... Tu sais comment ça coûte, là, faire l'espèce d'accélérateur de particules et tout, là? C'est super coûteux.
Oui, je l'ai visité.
Oui.
L'accélérateur de particules au CERN à Genève. Si un jour tu vas en Suisse, tu iras le visiter. C'est quelque chose.
C'est ça, c'est que ça m'apparaît invraisemblable qu'ils construisent une machine de même, de cette ampleur-là, tu sais, comme... En imaginant que... Ben c'est parce que le voyage dans le temps, ça représente quoi? Ça représente-tu beaucoup d'énergie? C'est là que je te dis que c'est du fantasy un petit peu. T'sais.
OK, oui, clairement. T'sais.
Donc, la science-fiction fonctionne sur des mythes et des symboles. Donc, je pense qu'ils ont pris le symbole du gars qui fait sa start-up puis que ça donne qu'il fait une machine à voyager dans le temps qui peut le rendre très riche. Puis c'est un peu, comme il disait, encore là, je cite le réalisateur, il disait, j'aimais bien que ce soit des imbéciles, tu sais. Après, ouais. Ils sont intelligents pour une chose, mais une fois qu'ils maîtrisent leur concept, ils savent pas quoi en faire, tu sais. Puis ils agissent de façon stupide. Puis c'est vrai, ils agissent de façon stupide, on va faire de l'argent avec. Ouais. Puis c'est triste parce que le pire, c'est que ça, c'est vrai, ça nous représente. Tu es devant ce pouvoir-là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas sauver la vie de quelqu'un d'important? Tu vas découvrir que la petite vieille madame, elle va mourir parce qu'on n'a pas donné à manger, puis tu vas aller l'aider. C'est comme dans Groundhog Day, il y a comme une progression vers le bon. Parce que c'est Groundhog Day aussi, cette histoire-là, d'une certaine façon. C'est que tu revis toujours, pas la même journée, mais tu peux voir ce qui se passe. Puis à la fin, ils le font, ils revivent toujours la même journée. Peut-être en fait, c'est un premier film avec plein de qualités, que c'est facile de chialer, qui était fait avec 7 000 $. Chapeau. Parce que ça paraît pas que c'est fait avec 7 000 $. 7 000 $. J'aurais pu donner facilement 100 000 $ à ce film-là.
Ah ouais?
Ben oui. C'est quand même bien filmé.
C'est vrai qu'il y a certaines qualités quand même.
C'est pas... Tu vas me dire que la caméra était désagréable? Non, moi, je pense pas.
Non. Non, il y a une économie de moyens dans le sens où, je veux dire, la caméra est toujours... Elle est posée où il faut.
Ouais.
Il y a une économie de plans, oui, dans le sens où ils n'ont pas tourné 36 plans pour la même scène. Il y a beaucoup de plans séquences.
Tourné en 16 mm.
C'était tourné en 16 mm. Puis je crois qu'ils avaient un ratio de 1 pour 2. Fait que c'était comme, ils étaient vraiment limités au niveau du stock.
Mais d'autant plus que le jeu fonctionne.
Déjà, je les trouve très bons, réalistes.
Très réalistes. C'est ça.
Y a ce jeu. Bon, peut-être ça vient du fait qu'ils disent des choses qui ont l'air complètement incompréhensibles, mais je veux dire, la manière dont c'est dit tout ça, c'est extrêmement naturel. Et la manière dont les dialogues, tu sais, cool, il y a un truc extrêmement naturel, quoi. Ça m'a vraiment... ça m'a, pour un premier film, là, pour un petit film indépendant, premier film et tout, je suis tombé... Ça m'a laissé sur le cul là, parce que c'est très maîtrisé, quoi. Je veux dire, j'ai rarement vu des films avec avec ce degré de réalisme. T'sais?
C'est ça. T'sais, comme quand
surtout
tu
un dis... premier film.
Ben c'est, ben surtout quand tu dis, c'est ça, ce budget-là, la difficulté, on sait c'est quoi, là, faire des films. Voilà. Là, c'est
donc, il y a vraiment un truc brillant là derrière. Y a... Ouais. Enfin, pour moi, ce gars-là, il est...
Ah, je te l'ai dit.
Je n'ai pas vu ce qu'il a fait après, mais il y a clairement quelque chose.
Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose de... Quand tu regardes des cinéastes un peu comme les Godard, les Bergman, les grands artistes là, de cinéma,
ouais.
Qui faisaient des films poétiques...
Godard, c'est... je ne le mets pas dans cette catégorie-là, c'est personnel.
Non, tu dois, parce qu'il a fait à bout de souffle.
Parce que je le connais. Puis... Oui, non, oui, ses quatre premiers films sont très bons, mais après, c'est que de la merde, excuse-moi. Voilà, on pourra en discuter une autre fois.
Ben, non, mais c'est parce que peut-être dans Godard, il y a le même type de prétention aussi, je te dirais.
Peut-être.
T'sais, c'est parce que il y a comme une espèce de... Non, mais Godard, il s'assume. Tu comprends? Il assume qu'il fait un cinéma poétique,
ouais.
Minimaliste, qui cherche à tester le cinéma. Tu vois ce que je veux dire? T'sais, il est dans une démarche.
Ouais.
T'es pas d'accord?
Non.
Non, mais moi, j'ai pas de plaisir à regarder les films de Godard, on est d'accord, là. Okay. T'sais, j'ai eu du plaisir à voir Pierrot le Fou...
Les trois ou quatre premiers sont bien.
Mais... À bout de souffle, tu sais, j'ai eu du plaisir à voir ça, mais effectivement, après ça, les films que j'ai dû voir quand je prenais des cours de cinéma...
C'est plus une torture que...
Puis là, t'as le professeur que lui, il adore ça. Puis là, tu regardes le professeur, t'es comme, je suis désolée, mon professeur, t'es vraiment sympathique puis cute de tant ta passion, mais c'est le seul truc que je trouve cute à l'exercice que je suis obligée de subir en ce moment, là, tu sais. Je vais apprécier que t'as l'air, toi, de triper pour de vrai, mais je me demande, tu vraiment... Vraiment, t'aimes ça? Parce que oui, mais bon, Primer, je sais pas, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu comme genre un film qui s'embourbe dans plein de « je vais te faire un style » ou « est-ce que tu comprendras pas ce qui se passe? » »« Je vais faire du cinéma vérité. Je vais être dans l'expérimental parce que mon intrigue, je vais la noyer volontairement dans le fin fond de mon film. » Je vais être une science-fiction.
Non, mais aussi, c'est clairement parce que je veux dire.
Je vais être une science-fiction qui est élitiste parce que je vais avoir un jargon scientifique, mais sans aucune vraie. En prenant le sujet de la science-fiction qui est le plus fantastique, c'est quand même un peu. C'est quand même un peu de front autour de la tête. Donc, ça à la limite, ça me déplaît pas. Cette partie-là, genre, je vais être hyper élitiste, je vais donner l'impression que je fais un vrai film. Potentiellement possible avec des gens qui font potentiellement des voyages dans le temps, mais je me sers de quelque chose qui est comme très loin là, dans les possibilités de choses qu'on peut faire, c'est-à-dire le voyage dans le temps, je sais pas.
Moi, tu vois, je veux dire, son jargon incompréhensible et toute sa grande théorie, c'était juste sa manière à lui d'éviter d'avoir à rentrer dans l'explication du voyage dans le temps, qui est inexplicable.
Mais il n'était pas obligé de nous rendre ça incompréhensible pour nous dire que c'était inexplicable. Là. Je veux dire, là, ce qu'on ne comprend pas, c'est comme qu'est-ce qu'ils font dans la vie, c'est quoi leur but.
Ouais, c'est vrai. Parce que dès le départ, tu les vois en train de préparer un gros mailing là, qu'ils vont faire.
Ouais, ça, moi, j'ai commencé à les perdre. Quand ils commençaient, il y avait une espèce de blob qui devenait gros.
Ouais.
Puis là, il allait voir un scientifique dans un laboratoire de biochimie. T'sais. Puis là, ça, j'ai pas catché trop le truc. Puis là, c'est là
mais c'est là où il commence à lui dire « Ah, j'ai remarqué des trucs particuliers. Il faut qu'il dise lui-même ce qu'il a remarqué. Ça produit la même quantité de protéines en quelques heures, en 5 minutes, que ce qui prendrait 5 ans.
Oui, c'est ça. Mais ça, tu le comprends à la fin, mais c'est juste que
tu comprends à la fin. Ça va, c'est compréhensible dès le départ. C'est sûr que c'est un truc qui
n'est
pas étranger dans le sens où tu dis, OK, tu comprends pas dès le départ.
Il parle du truc et tout. Puis c'est juste à la fin que tu finis par comprendre, OK, dans la machine qu'ils ont fait, ça prend 5 minutes pour produire quelque chose qui prend 5 ans. Mais en quoi c'est du voyage dans le temps aussi? C'est quoi?
Ça, c'est le début. Ça, c'est encore avant qu'ils arrivent. Ça, c'est au tout début. C'est avant qu'ils arrivent à l'histoire du voyage dans le temps.
Mais non, c'est à ce moment-là qu'ils commencent à dire que là, ça va de A à B.
J'ai l'impression qu'on a le même genre de dialogue qu'ils ont dans le film où ils parlent.
C'est ça, quand il dit qu'il va de A à B, c'est l'idée, c'est que le truc est pris dans une loupe de temps. Puis qui se grossit, tu sais.
Ouais.
Mais c'est comme, t'avais-tu besoin de passer par tous les laboratoires, puis toutes les bébelles, puis tous les mots pour nous expliquer ça, ou tu sais, je veux dire...
Ouais, mais moi, j'aime bien ce côté progressif de la révélation de ce qui est en train de se passer pour vrai.
Je sais, mais c'est parce que tout le reste avant, t'as envie de le réécouter parce que tu comprends pas ce qu'ils disent.
Okay.
Donc, t'arrives au moment que tu comprends ce qu'il dit, puis là, tu dis, moi, j'aime pas ça dans un film, tu sais.
Ouais.
Mais ça, c'est mon film. C'est ça, tu le dis, on se dit, est-ce qu'il faudrait l'écouter avec des sous-titres, tu sais? Quand j'étais petite, puis j'écoutais des James Bond, je comprenais rien au film, mais il y avait de l'action, tu sais. Puis je me suis dit, un jour, il faudrait peut-être que je... En devenant meilleure en anglais, je me suis dit, il faudrait que je réécoute toutes les James Bond pour comprendre de quoi... C'était quoi l'intrigue. Mais on s'en fout dans James Bond, c'est quoi l'intrigue, tu sais. On sait qu'il y a un méchant, on sait qu'il y a James Bond, puis on sait qu'il va partir.
Il y a un méchant qui veut détruire la planète.
Ouais, il y a comme quelque chose comme ça, tu sais. Mais là-dedans, t'es comme perdu, quoi, dans un blob de protéines qui se refait dans 5 minutes.
Dans un blob de protéines.
Mais ceci dit, c'est... Écoute, moi, je dirais que c'est un film que les fans de science-fiction... peuvent écouter, c'est très geek, c'est très autistique, il y a un petit côté... Je pense que si t'es...
Je pense pas que ce soit geek, non.
Ben oui, il y a quelqu'un qui s'est donné la peine sur Wikipédia pour faire un diagramme pour expliquer le truc. Voyons donc, combien de films indépendants que 420 000 personnes ont vu va avoir un diagramme sur Wikipédia? Il faut c'est très geek. Là-dessus, là, je vais pas en démordre. Là. Je peux m'assiner avec
d'accord.
toi.
OK, ouais, je vois ce que tu veux dire, d'accord.
Un geek, c'est quelqu'un qui... C'est la personne qui a écouté 25 fois le film parce que dès qu'il l'a vu la première fois, il est tout excité parce que c'est obscur puis c'est plein de messages cachés, OK? C'est comme les geeks qui apprennent le Klingon, là, tu sais.
OK.
C'est comme... Moi, quand j'écoutais Star Trek, les premières fois, ça m'a pris beaucoup de temps avant de réaliser qu'il y avait quelque chose qui était un langage Klingon. Je pense qu'il a fallu qu'Internet existe pour que j'apprenne la chose. Puis pour moi, c'était comme du bruit de fond, là, okay. tu sais. Mais il y a des gens qui, écoutant dans Star Trek, les geeks, ont remarqué qu'il y avait un langage Klingon. Ils ont remarqué que c'était un langage. Déjà, d'habitude, tu penses toi que c'est un bruit qui est inventé plus ou moins ou qui parle japonais, mais... mélanger avec...
Ils ont juste inventé trois phrases pour la scène, mais non.
Mais non, le geek a remarqué qu'il y avait effectivement... Parce qu'on sait très bien que, pour ceux qui ne sauraient pas, qui sont moins geeks que moi puis Nick réunis ici, que le Klingon, c'est vraiment le créateur, c'est Roddenberry ou...
Roddenberry.
Roddenberry, je mélange une fois, je ne maîtrise pas mon Star Trek.
C'est
lui qui l'a inventé, le Klingon, je pense. Hein?
Ah, écoute, ça se peut. Là, je ne suis pas assez fan de Star Trek pour savoir ça, mais...
Il y a un dude dans l'équipe qui a créé un langage pour les Klingons, puis après ça, ça s'est mis à triper là-dessus. Ouais. Donc, tu sais, les geeks qui écoutent Primer, puis eux autres, c'est comme ces gens, oh, wow, tu sais, puis après ça, ce qui se passe avec un geek, c'est que ça va juste être super excité à décortiquer le film, tu sais, puis à faire des diagrammes pour Wikipédia. Puis, je veux dire, ça perd de perspective qu'il y a peut-être quelque chose de stupide dans le film, excuse-moi, là, dans l'ensemble de Big Picture. Est-ce que je dirais ça?
Non, mais rien que le voyage dans le temps... c'est pas que c'est un truc stupide, le truc de voyage dans le temps, mais c'est clair que c'est quelque chose de inexplicable parce que, a priori, irréalisable. Mais j'aime beaucoup, en fait, ce côté vrai jargon scientifique où, genre, tu sais, on parle de production de protéines, machin. Ça ancre vraiment ton truc dans une certaine réalité. Et ça me plaît.
C'était la qualité de Brainstorm aussi qui avait ce feeling-là un petit peu.
Oui, mais il y avait quelque chose de plus simpliste.
Mais sans
dans...
nous perdre, c'est ça l'affaire.
Ouais, ils nous gardent. C'est sûr qu'ils ne cherchaient pas à nous perdre.
C'est ça, moi, il y avait une volonté de nous perdre, tu sais, qui à un moment donné...
Dans Brainstorm aussi, il s'attaquait à quelque chose de plausible.
Potentiellement plus plausible, on est plus proche de la réalité virtuelle, de choses que... On est dans quelque chose de plus... plausible. Peut-être que j'aurais plus aimé le film si j'avais comme plus compris au début, tu sais, puis qu'à un moment donné, quand il me parle, tu sais, tu vois ce que je veux dire?
Je vois ce que tu veux dire.
Mais j'aime pas avoir besoin d'assistance pour regarder un film, puis je me considère quand même quelqu'un d'extrêmement intelligent, tu sais. Si tu essaies de comprendre... Ben, en fait, c'est que ce qui nous invite à son film, c'est comme un exercice. Puis c'est là que je trouve ça prétentieux. T'sais. Pourquoi tu regardes un film? Est-ce que tu regardes un film? Si je veux vraiment, vraiment me casser la tête, là, ce que je fais assez régulièrement, je vais lire des livres de vulgarisation scientifique. Okay. Comme moi, en ce moment, là, je dois montrer sur l'alimentation. Là, ben alors là, je suis en train de lire tout sur les vitamines et tout. Puis là, je suis en train de lire des trucs. Là, ça parle de connexion de carbone, de machin et tout. Puis là, c'est loin, là, la chimie organique dans mon histoire. Mais là, je vais me casser un peu la tête parce que je comprends que c'est une réalité complexe. Quand je regarde un film, OK, j'ai pas besoin qu'un dude m'invente une fausse réalité que lui-même a créée,
okay,
qui m'a rendu incompréhensible. Je suis comme, regarde, je vais lire un livre de physique, là. Tu sais, c'est compliqué, là. Moi, j'ai fait un bac en physique, là, puis je veux dire, j'essaie de comprendre encore la physique quantique.
Lui aussi, d'ailleurs, je crois qu'il est... Il est pas qu'il est... Si, il est diplômé de quelque chose. Check bien, là, mais je suis quasiment certain qu'il est diplômé de quelque chose qui a à voir avec la physique.
Donc, avec la physique, sais qu'il avait étudié...
Peut-être que vous vous retrouvez quelque part.
Non, je sais qu'il avait étudié la physique pour faire son film. Il y a une différence entre faire ça...
Ah, moi, j'ai pas lu ça, mais peut-être.
Ok. Il a fait des mathématiques, ça l'explique tout. Maintenant, je comprends. Ça l'explique tout. Ah, les mathématiciens. Ah, mon Dieu. Si tu veux la complexité puis les choses incompréhensibles, les autistes, les gens qui sont perdus, schizophrènes.
Attention, là, n'insulte personne.
J'insulte personne, c'est un fait. Va sur un département, va dans une université. Moi, j'étais dans le département de physique et je prenais des cours dans le département de mathématiques. Okay. Dans le département de physique, tu avais des professeurs habillés, OK? Normal. Okay, dans le département de mathématiques, tu avais des professeurs qui, à l'époque, que c'était pas la mode, portaient une barbe plus longue que genre ça allait au niveau de leur nombril, OK? Okay. Puis ça se promenait genre en sandales, en plein hiver, puis en... ça avait l'air des hippies, là. C'est weird, là, okay. Tu sais. Puis certains profs de mathématiques, ils te regardent pas dans les yeux, hein, tu sais, genre comme...
Okay.
Tu sais, genre, le contact avec ton regard, c'est comme genre quelque chose qui les amène dans un état d'anxiété profond, là. Okay. J'exagère à peine.
C'est weird, j'espère qu'il y a des mathématiciens parmi nos auditeurs.
Mais non, j'ai fait de la physique. Non, okay, on peut pas aimer les mathématiques quand on a fait de la physique. C'est, okay, ça va comme ensemble. C'est comme,
okay,
c'est comme des couples où est-ce que c'est une fille puis un gars qui sont mariés ensemble puis qui chicanent. Là, c'est un peu ça que je suis, okay, en train de faire. Non, j'adore les mathématiques. Hein, c'est fascinant, mais les mathématiques, c'est comme fou. Tu comprends?
Ouais.
Il y a des gens qui sont virés fous à faire des mathématiques. Il y avait un super documentaire de la BBC. Ça parlait de quatre scientifiques qui sont virés fous, tu sais, comme quatre mathématiciens, pas scientifiques, des mathématiciens.
Okay.
Il y avait ceux-là qui a fait le incompleteness theorem, le théorème d'incomplétude.
Ça me dit quelque chose, ton truc.
OK, donc, en fait, le documentaire dont je parle, ça s'appelle Dangerous Knowledge.
Dangerous Knowledge, oui.
Dangerous Knowledge. Puis ça parle de trois mathématiciens, George Cantor, Ludwig Boltzmann, Kurt Gödel et Alan Turing, quatre génies qui nous ont profondément influencés et qui ont tous fini par commettre un suicide, juste, okay, pour dire. Okay. Certains sont devenus fous. Turing, c'était d'une façon tragique, mais les autres, je pense qu'ils sont juste devenus fous. Il y en a un qui est devenu carrément fou, et genre, il refusait de manger parce qu'il pensait qu'on allait l'empoisonner par un ayac. Je te jure, c'est intense, ces mathématiciens. Je connais pas quatre physiciens qui ont commis un suicide. Certainement pas, okay, quatre physiciens célèbres. Je pense que dans les mathématiques, c'est que l'affaire avec les mathématiques, c'est que il y a quelque chose d'intangible. Le principe d'infinité est perturbant. Il y a quelque chose qui est comme qui semble pas vrai. Puis à un moment donné, tu dérives dans une incapacité d'être dans la réalité des choses que nous les physiciens on vit pas parce qu'on est tout, ben nous les physiciens, je suis pas physicienne là, j'ai un bac en physique, ça compte pas là. Mais nous les gens qui sommes plus dans le côté, okay, physique, ouais, des choses, on arrête dans une certaine approximation de la réalité puis on est bien content avec ça. Tu sais, je dirais à un moment donné,
d'où le terme de physique.
Ben en dessous de l'atome, t'as le quark, t'as le lepton, t'as le machin, t'as le boson et, okay, tout. Puis on cherche toujours des plus petites, mais ça s'arrête là.
Ouais.
À un moment donné, on est comme, c'est ce qu'il y a. Après ça, peut-être qu'ils vont en avoir des plus petites, mais c'est pas grave, ça nous stresse pas. Parce que le mathématicien, lui, il vire dans des concepts. Ouais. Mais c'est le fun, les mathématiques, ça peut devenir très, très weird quand tu rentres dans des espèces d'équations bizarres, là, qui sont prouvables, pas prouvables, toute la quête. Donc, bref, tout ça pour dire que je commence à comprendre ma réaction avec Shane...
Caruth. Qui est un nom imprononçable, en plus.
Qui, en plus, a composé la musique de son film, parce que, comme tout mathématicien, c'est un musicien aussi, on dirait que ça va ensemble.
Ça, c'est vrai, ça. C'est drôle.
Ah oui, puis il était aussi un software engineer.
Bah, il s'est servi de son background, tu sais, pour amener des tas de choses.
Oui, mais c'est amusant qu'il ait choisi quand même un principe physique, tu sais. Je veux dire, les superconducteurs, ouais, c'est tout. Il s'est tout comme... Il est parti de son monde de start-up, OK, dans un garage qui font des ordinateurs, ouais, comme il était. Puis une structure que je dirais peut-être justement, comme dans les mathématiques, avec une sorte de côté incompréhensible, si tu veux, ouais, complexe, une complexité. Puis il est allé mettre le monde de la physique là-dedans. C'est un drôle de
match. Ouais, peut-être aussi parce que le monde de la physique est quelque chose d'un petit peu plus tangible ou un peu plus compréhensible pour le néophyte, finalement, tu sais.
Ouais,
un peut-être peu plus proche de notre monde, tu sais.
Ça me fait penser à Pi aussi. Il était beaucoup, ah, pareil, ouais, à Pi. Mais puis aussi, j'avais trouvé ça vraiment prétentieux. Pourtant, j'adore Aronofsky puis tous les
c'était
films
compliqué,
fait.
Mais moins, c'était moins compliqué que ça. Alors, je me rappelle d'un film compliqué, mais au bout de tout ça, finalement, très compréhensible. T'sais.
Oui. Ben,
il faudrait que je le revoie maintenant, ça fait très longtemps. Là.
Plus compréhensible que Primer, mais extrêmement prétentieux,
ouais,
extrêmement agaçant.
Ouais, il y avait beaucoup de prétention, ça oui.
Et du coup, d'Aronofsky, j'ai adoré tous ses autres films. Hein. Requiem pour un Dream, j'ai adoré ça. Mais tous les films de Aronofsky, j'ai pas vu Noé, que je vais probablement détester, parce que tout le monde a dit que c'était vraiment mauvais. Là.
Non, mais j'ai entendu quelques bonnes critiques, malgré tout. Pour mais ouais, étonnamment. Mais ça m'intéresse pas, en fait, c'est ça le truc, c'est que ça m'intéresse pas tellement.
Ouais. Est-ce qu'on recommande de voir Primer, certainement? Ou geek, en tout cas, les gens qui sont geeks. Toutes les gens qui adorent Star Trek, qui ont appris le Klingon, qui ont étudié en mathématiques.
qui ont appris le Klingon, j'aime bien.
Qui veulent parler.
J'aime beaucoup le
personnage.
Les critères de qualification pouvoir aimer Primer.
Si vous me rencontrez un jour, là, venez me voir. Moi, j'adore ce genre de gars ou de filles-là qui sont dans ce que je viens de décrire. Puis probablement que... Carrot, je vais le prononcer un
Shane
jour.
Carruth, ouais.
Shane Carrot. Shane Carrot et moi, on s'entendrait passablement bien. Donc, on vous le recommande. Si vous êtes quelqu'un qui est plus Star Wars, non. Et si vous êtes Star Wars, E.T., Wall-E, alors là, oubliez Primer, vous allez vous comme frapper la tête sur un mur après 10 minutes.
Mais si vous êtes Star Trek, C'est quoi? C'est dire que les fans de Star Wars sont moins cérébraux que les fans de Star Trek, c'est ça?
Tout à fait. Ouais. C'est la grosse différence.
C'est probablement le cas. Ouais. Moi, je suis clairement plus un fan de Star Wars qu'un fan de Star Trek.
Mais... Moi, je pense que je suis plus Star Trek. Quand j'étais petite, j'aimais Star Wars comme tous les enfants, mais je suis devenue plus Star Trek à la longue.
Ouais.
Par contre, le documentaire Dangerous Knowledge de la BBC, ça, tout le monde peut le voir. Vous allez adorer ça. BBC, c'est...
Ouais, ben, je vais très certainement essayer de trouver ça rapidement. Ouais, non, c'est Primer. Mais c'est marrant parce que moi, Je pense que le commentaire général que j'avais toujours entendu de Primer, c'est que c'était un film super. T'avais jamais entendu parler de Primer?
Ben, je veux dire,
chaque fois qu'on parlait de, typiquement, même, tu sais, quand on faisait notre liste de films, etc., c'est, Primer, c'est un truc qui est revenu souvent, je me rappelle très bien. Moi, j'étais là, il faut que je voie ce film. Chaque fois que j'entends parler, je ne sais pas ce que c'est. T'sais.
Écoute, moi, je pense que je suis probablement plus arrogante encore que tous les gens arrogants qui ont prétendu aimer le film. Moi, je pense que c'est vraiment mon arrogance qui me fait détester ce film. Parce que je pense que quand tu es un arrogant primaire, donc moi, j'ai une arrogance à un niveau encore plus élevé, OK? Quand tu es un arrogant primaire, tu ne comprends pas un film, tu dis « waouh, c'est génial », tu sais. Moi, non. Moi, je suis comme genre insultée. Genre, tu peux pas me faire sentir stupide parce que je suis plus intelligente que toi. Tu comprends? Okay. Donc, je vais comme décortiquer le film et je vais vraiment le détester.
Okay, fait que si on donne un nom à cet épisode, on va l'appeler l'arrogance de Marie-Louise. Non, c'est drôle. On tombe dans un discours sur l'arrogance.
Mais oui, mais c'est ça toutes les Godard. Pourquoi tu le détestes? Parce qu'il est arrogant.
Probablement, t'as raison.
Il te force à voir un truc. Écoute, quand tu regardes un film de Tarkovsky, il y a beaucoup d'arrogance.
C'est quelque chose qui est très étranger à moi, parce que je suis pas quelqu'un d'arrogant, mais...
viscéralement, tu vas aimer bien plus un... Je sais pas, moi... Donnons un exemple, tu sais, Memento, qui marche sur une gimmick, mais qui est tellement pleine d'émotions, puis de.
Ouais.
Tu sais, qui a comme une intrigue et tout, à justement un Primer qui fonctionne sur une autre gimmick, mais qui est bourré de. Qui est bourré d'une attitude. Moi, je vais pas essayer de te rendre ça compréhensible, je vais essayer de te rendre ça incompréhensible. Puis, c'est juste ce qui est terrible, c'est que le gars qui fait ça, il y a une insécurité en dedans de lui, parce qu'il est brillant, il a une super bonne idée, il a du talent. Puis il justifie sa décision de rendre ça incompréhensible en disant que c'est compliqué la science, puis je voulais pas rendre ça facile, tu sais.
Ouais.
Je veux dire, tout est compliqué, là. Être pompier, c'est compliqué, là. Puis on fait des films sur les pompiers, tu comprends, tu sais.
Ouais, ouais, ouais.
Je veux dire, faire de la bouffe, c'est compliqué, là. Être chef cuisinier pour faire de la bouffe d'une façon impeccable, c'est compliqué. Mais quand tu regardes un film avec un chef cuisinier, t'es pas en train de dire, mais qu'est-ce qu'il fait, tu sais.
Ouais.
Tu sais, je veux dire, vulgarisons, on vulgarise tout le temps au cinéma. Parce que c'est quoi le cinéma? Le cinéma, c'est d'amener des gens à rentrer dans des univers qui leur sont infamiliers. Donc, quand t'arrives dans un film où est-ce que tu comprends pas, ben, tu crées une sorte de. Tu sais, c'est là que je te dis qu'il y a une arrogance par rapport à ton spectateur, tu sais.
Ouais, attends, je comprends ce que tu veux dire.
C'est rare les films qui nous font sentir stupides qu'on aime, là.
Ben, les films qui me font sentir stupide, en général, je ne les aime pas. Mais je trouve que son film, il tient la route malgré tout. Tu sais, je veux dire, j'ai compris quelque chose. Et ce quelque chose que j'ai compris m'a pas déplu. Il m'a même intrigué.
Après l'avoir écouté deux fois.
Ouais, non, mais même au bout de la première fois, j'étais là, faut que je revoie ce film parce que je me suis dit, faut que je le revoie.
Ok, pour, d'accord, c'est pour... charmant. Il y a un truc charmant dans le film.
Et donc c'est, pour moi, c'est que l'exercice est réussi. T'sais. Oui, c'est peut-être de l'arrogance, mais malgré tout, qui suis pas quelqu'un qui verse dans le. Tu sais, moi, les films trop compliqués en général, c'est genre wow. Je laisse vite tomber. Enfin, c'est pas que je laisse vite tomber, mais je veux dire, je perds vite de l'intérêt.
Je vais lui donner ça. Il est brillant, le jeune homme. Parce qu'effectivement, ça aurait pu être un film expérimental qu'on décroche après 10 minutes,
ouais.
Qu'on n'écoute pas.
Ouais. Je trouve que son talent, c'est de rendre ça intriguant, intéressant. Donc, de ne pas te faire sentir complètement comme un con. Je veux dire, oui, au début, t'es perdu, mais en même temps...
Mais pourquoi il n'a pas fait un autre film tout de suite après? C'est ça que je trouve bizarre.
Ça, c'est étrange, ouais.
C'est ça que je trouve bizarre, parce que, sérieusement, c'est un premier film. Puis c'est peut-être pour ça que je suis agressive, c'est parce que je me dis, regarde Xavier Dolan, son premier film, Mamie, tout le monde a crié au génie, puis il y a la moitié du monde qui déteste ce film-là parce que ça crie tout le temps, mais il a fait plein de films après. Puis son dernier film que j'ai vu, moi, que je sais qu'il y en a sûrement fait deux autres depuis, mais c'est Mamie, là, moi, le dernier film que j'ai vu, puis j'ai adoré ça. J'ai trouvé ça comme super bien fait. Donc, c'est un cinéaste qui suit son parcours. Puis c'est ça, tous les cinéastes font des premiers films, puis on le dit, c'est un bel exemple. Un film hermétique, plein de prétentions avec ses défauts, mais avec des qualités, des idées, des affaires. C'est la même chose. Primer a tout ça. Pourquoi attendre 10 ans pour comme voir arriver un deuxième film? C'est bien ça, là, je pense que je me trompe pas.
Est-ce que c'est un de ces gars perfectionnistes qui...
Ben oui, 10 ans, ben 9 ans. Je sens qu'il y a quelque chose chez lui, je vais le psychanalyser maintenant. Alors, je vais passer mon côté, t'es un mathématicien puis je suis une physicienne, puis je te rentre dedans parce que c'est le combat. Non, ceci dit, c'est pas vrai. Les physiciens, nous autres, on se chicane pas avec les mathématiciens. On les marie, on les aime, on les embrasse, tout le kit. C'est les ingénieurs qu'on aime pas. Je veux juste préciser. Oui. Je vais tellement me faire des amis sur le podcast. On va perdre tous nos fans.
Je sais mais pas non, ce qu'il y a eu avec Marie-Louise cette fois-ci.
J'ai plein d'amis ingénieurs. Je vais souper avec un ingénieur demain. J'espère qu'il m'écoute pas. Parce qu'on va peut-être pas avoir un bon souper. Puis... Aïe, aïe, je vais raconter
mais,
ça. Mais,
ouais, donc,
mais tu... ouais. Je vais le psychanalyser maintenant. Je comprends pas qu'est-ce qui l'a bloqué à faire un autre film s'il y avait toute cette prétention-là, cette certitude-là quand il faisait ce film-là. Tu comprends ce que je veux dire, tu sais? Quand tu produis, moi, c'est mon côté productrice, peut-être qui ressort en ce moment parce que c'est ce que je suis en train de découvrir, tu sais. Ouais. Quand t'es producteur, t'es en équipe avec le créateur avec qui tu es, tu sais. Puis, toutes les objections que t'amènes et tout par rapport au travail du créateur, c'est toujours parce que tu veux faire un meilleur projet. Mais moi, typiquement, quand je travaille avec un créateur et tout, c'est toujours, je le challenge, je le pousse. Puis à un moment donné, quand le créateur pousse trop puis il tient à son idée, puis ça m'intervient en fin de semaine, je fais juste, OK, tu y tiens, c'est ton projet, c'est central à ton idée, j'arrête, je travaille avec toi, je crois en toi, puis on va y aller, on va essayer. Après ça, si on se fait refuser une demande de subvention pour cette idée-là, puis que le gars dit non, je vais pas... me retourner contre le créateur puis dire, tu vois, c'est une mauvaise idée. J'ai dit non, j'ai embarqué dans son idée. Puis je vais dire que le subventionneur n'a pas compris notre projet puis il va falloir leur expliquer mieux. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, la nuance, c'est comme d'être travaillé avec la personne, c'est que t'endosses, mais tu le challenges constamment. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa vie à lui. Mais tu fais une dépression nerveuse pendant 10 ans. Tu sais, d'habitude, ça dure 2-3 ans. Tu sais, j'aurais pu prendre 2-3-4 ans. Y a-tu décidé de retourner étudier en mathématiques puis de lâcher le cinéma?
J'ai peut-être
écrit d'ailleurs sur Wikipédia.
Enfin, en tout cas, ce gars-là, il y a quelque chose, il y a un talent, il y a quelque chose qui est... Oui, effectivement, c'est un peu décevant de le voir arriver. C'est quoi le nom de son deuxième film, en fait?
Upstream Carter.
Ah oui, mais j'en ai entendu parler de ce film, en plus, là. Et il paraît que c'est bien. Enfin, il me semble que... D'ailleurs, je pense que c'est sur le Slash Filmcast, encore une fois, que j'en ai entendu parler et que c'était plutôt une critique positive. C'était pas une critique, une foule, tu sais, genre, tu sais, une grosse critique en bonne et due forme et tout ça, mais je veux dire, c'était comme une appréciation rapide du film et qu'elle était bonne, quoi. Donc, voilà, faudrait que je vois ça.
Je serais curieuse de voir un autre film de lui, ça, c'est certain. Puis je serais curieuse de prendre un verre avec lui, puis d'espérer qu'il parle pas français. Bon, qu'il écoute pas le podcast que j'ai fait.
Bon, c'est bien, donc...
C'est rare que je suis négative de même, hein?
Ouais, non, mais... Mais t'es pas complètement négatif dans le sens où tu reconnais les qualités de... Je veux dire, t'es pas en train de dire que c'est un film de merde, c'est ça non. Que je veux dire.
Non, je pense que quand il y a un film que je trouve qu'il n'y a pas de valeur, j'ai moins de choses à dire dessus.
Et là, il y a clairement quelque chose.
De toute façon, Olivier est là pour me donner la réplique en général, parce que lui, il va aimer le film que j'aime pas.
Ouais, mais là...
On ne le nommera pas, on vous a juste écouté iRobot... c'était quoi l'autre truc de martien
C'est dommage, on n'a jamais eu l'occasion de faire Independence Day.
Il va revenir à Montréal un jour.
Ouais.
Quand il reviendra, on fera ça.
Ben, du coup, on est pas mal au bout de la discussion, à moins que tu aies encore des choses à dire.
Non.
C'est passé vite, finalement.
La musique ne m'a pas marqué.
J'ai senti des influences, mais elle n'était pas désagréable. J'ai trouvé plutôt bien... Tu sais, elle se fondait bien dans le projet, elle était très discrète. Ça, c'est quelque chose que j'ai bien aimé dans sa réalisation de manière générale, c'est que c'est réalisé de manière simple et efficace.
Ouais.
Ça laisse la part belle aux comédiens, et puis il y a tout ce déballage de dialogues, certes incompréhensibles, mais en même temps, il y a ce naturel incroyable dans la manière dont ils le disent, tu sais. Et puis la musique, pareil, elle est discrète, elle est simple, elle vient au bon moment, tu sais, elle est jamais envahissante.
Ouais, puis vraiment, l'effet cinéma vérité fonctionne très bien, là, ouais. Avec à un moment donné, des petites scènes avec sa femme et tout. C'est très en background, mais c'est très réaliste.
Ça marche.
Tu sais, puis c'est comme. Tu comprends pas c'est quoi. Ce personnage-là de la femme est comme. C'est intéressant parce que. Elle le supporte pas, elle lui nuit pas, elle est juste comme là, elle a fait sa vie, puis c'est comme une sorte de... Elle passe, c'est comme là. Puis elle existe dans l'intrigue, mais elle a pas de grippe, tu sais, autant... c'est ça, on dirait qu'elle a vraiment... Elle a un enfant, c'est ça? Elle est comme... Elle est comme dans son univers à elle et tout. Puis ça, je trouvais ça pas mal, tu sais, parce que c'est...
Mais ça, c'est des petites choses comme ça que...
C'est un autre cliché des films où est-ce qu'il y a toujours un personnage féminin avec qui il y a un intérêt romantique, des affaires de
Et là, il n'est pas rentré là-dedans. Hein. C'est comme... Mais il y a plein de petites idées intéressantes comme ça. C'est comme l'idée que quand il retourne dans le temps, il s'isole, tu sais, de manière à avoir aucune influence, tu sais, de rien savoir de l'époque à laquelle ils sont et d'avoir aucune influence sur rien du tout.
Oui.
Voilà. Et ça, c'est des petites choses que je trouve intéressantes. Enfin, jusqu'au moment où y en a un qui remarque que l'autre a laissé son téléphone en marche et puis qu'il y a cette histoire du téléphone.
C'est là que
ça commence. Ouais, le doute
c'est vrai qu'il y a une partie
là.
Très compréhensible, c'est tout ce moment-là.
Oui.
En fait, du moment qu'il commence, puis c'est bien comment il explique comment il a fait le premier voyage dans le temps pendant qu'il le fait avec l'autre. Tu sais, c'est un procédé cinématographique, c'était déjà vu, mais c'était bien fait.
Mm-hmm.
Je pense que c'était déjà vu, je pense pas qu'il l'a inventé. En tout cas, ça m'a paru intéressant de raconter l'expérience, comment lui l'avait vécu pendant qu'il est en train de la refaire avec l'autre.
Mm-hmm.
Et jusqu'au moment où est-ce que là, le téléphone sonne, puis là, le père de l'autre se ramasse dans le bébé, puis là, on comprend plus rien encore.
Mais c'est ça, non, mais moi, je
suis fière de ne pas avoir cédé à la tentation de réécouter le film, maintenant que j'y pense. Je pense que c'est un film qui était fait pour que tu l'écoutes plusieurs fois. Je refuse. Je suis contre. Je suis quelqu'un d'occupé.
Mais remarque, ça m'arrive souvent pour le podcast.
Je suis quelqu'un qui est occupé, qui travaille très fort.
Ouais.
Qui est très cultivé, surtout en sciences puis en science-fiction, en tout cas plus que la moyenne, qui est extrêmement arrogant. Je considère que quand j'écoute un film, je n'ai pas l'obligation de l'écouter deux fois, à moins que j'ai vraiment aimé le film puis que ça va m'apporter du plaisir de l'écouter une deuxième fois.
Ouais.
Donc, je me suis servi de Wikipédia pour avoir à éviter cette chose-là puis comprendre le film en question.
Fair enough.
Très bien, le diagramme dans Wikipédia marche très bien. Ce serait mon conseil, d'ailleurs. J'irai aux gens...
Avant d'écouter le film, allez checker le diagramme dans Wikipédia.
Lisez tout Wikipédia. OK, vous avez deux options. Soit vous écoutez le film de façon complètement vierge et que vous vivez l'expérience de ne rien comprendre au film. Ou, ben là d'ailleurs, j'imagine que les gens qui nous écoutent ont peut-être fait le choix d'écouter le film ou pas.
Mais à part ça, ce que tu viens de dire, le fait d'avoir écouté le film alors que j'étais complètement vierge, je savais rien du film. Je savais même pas, je veux dire... La seule chose que j'ai découvert au moment de voir le film, c'était que ça a été fait avec 7 000 $ et que c'était un petit film indépendant de rien. Moi, je pensais que c'est pas du tout, quoi. J'avais aucune idée. Je m'attendais à un film avec des têtes d'affiche, un budget conséquent, pas un gros film, mais je sais pas pourquoi je m'attendais à quelque chose de plus, un film de studio ou alors un film, indépendant avec un budget un peu plus conséquent, quoi. Donc j'ai aimé ça, le fait de rentrer dans le... Parce que ça m'arrive pas souvent, là, le fait de rentrer dans un film... C'est marrant, on parlait de ça au début avec Star Wars, mais c'est ça. Ça m'arrive pas souvent de rentrer dans un film avec aucune info ou extrêmement peu d'informations.
C'est sûr que 7 000 $, ça veut dire que le dude, il écrit le film, il écrit son scénario, il le pitchait à son ami, ils s'en sont parlé un petit peu, il a trouvé 7 000 $ en pellicule, puis là, ils l'ont shooté, là, ils n'ont probablement pas eu beaucoup de challenge d'édition, de remise. Peut-être que c'est moi qui ai tort, puis que l'avenir du cinéma, c'est des films plus comme ça, où est-ce que les gens vont être capables de faire plein de films par leurs propres moyens, complexes, puis ce que ça va faire, c'est que ça va complexifier le cinéma, puis que ça veut dire que les gens qui sont fatigués puis qui veulent se reposer vont écouter la TV ou je ne sais pas trop quoi. Puis le cinéma, ça va être pour une élite...
Ben, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que l'Internet, l'internet et les moyens qu'on a maintenant pour faire toutes ces choses-là, que ce soit les petites caméras qui sont à des prix abordables, que ce soit les logiciels d'effets spéciaux qui deviennent complètement abordables, que tu peux faire sur ton laptop chez toi. Là. Je veux dire, tu n'as qu'à browser sur Internet, et, sur YouTube ou sur Vimeo, puis d'aller voir toutes sortes de courts-métrages de science-fiction qui ont été faits avec zéro moyen quoi, et qui sont franchement sont vraiment intéressants. Quoi.
Oui, le défi d'aujourd'hui, c'est pas de faire un beau film. Il y a 20 ans, faire un film qui avait un look, ça y est, tu le vendais, là. T'avais juste besoin de te démerder pour le faire. Mais maintenant, le défi, c'est d'avoir une bonne histoire. C'est ce que je dis à tout le monde. Puis c'est dur d'avoir une bonne histoire.
Parce qu'au niveau matériel, tout est accessible. Maintenant, maintenant le défi, c'est d'avoir une bonne histoire. Et ce qui est très bien, d'ailleurs. On retourne à la base.
Je ne suis pas sur l'histoire, sur le petit côté. Moi c'est parce qu'il a agi d'une façon anti-hermétique. Puis je pense pas que je suis d'accord avec ça. Je pense que moi, j'aime les films qui ont des intrigues, qui ont des doubles niveaux, qui ont des doubles langages. J'aime voir un film qu'après ça, je vais retourner voir le film puis je vais voir autre chose. On est d'accord. Ça, c'est bien. T'sais. Pour moi, c'est un exercice de style quand tu dis je vais faire un film qui va être incompréhensible parce que ça devient incompréhensible, les idées de voyage dans le temps, le côté récursif. La récursivité, là, l'espèce d'idée que tu rentres dans la loupe, c'est vrai que c'est complexe, mais... C'est pas nécessairement incompréhensible, ça peut être super élégant aussi. Tu sais, c'est ça, les fractales, tu sais, cette petite forme et tout, ça forme quelque chose de beau. Donc, l'idée qu'il soit toujours pris pour revenir dans le futur et tout, moi, je pense que ça aurait pu être un petit peu plus clair, là, pas cette histoire de gars qui tue, j'en reviens à ça. Mais bref, c'est difficile d'avoir une histoire qui... c'est difficile d'écrire une histoire intéressante. C'est pas de faire le film.
Non,
c'est là-dessus qu'on se bat... Shane Carrot, il pourra venir me lancer des pierres quand il verra mon premier long métrage.
Okay.
Où est-ce que
le rendez-vous est pris?
Où est-ce que on vit cette difficulté là d'essayer d'écrire une bonne histoire. Voilà.
Bon, ben c'était le mot de la fin.
Voilà.
Bien, Marie-Louise, on te retrouve sur Twitter, @MarieLouGariepi.
Oui, j'y vais de temps en temps, c'est ainsi à Twitter, j'ai recommencé à tweeter.
Ah, c'est bien. Puis sinon, c'est Facebook, marielouise.gariepi.
Oui.
Moi, je suis sur Twitter, @SteadyNick. Et pour vous abonner à ce podcast, c'est toujours, comme toujours, le rendez-vous sur notre site internet 24quarks.com. Ou sur iTunes.
Juste dire un truc. Il y a des gens qui nous ont fait remarquer qu'on avait un problème.
Oui.
Et puis, j'ai vraiment pas le temps de m'en occuper pour le régler. Donc, si jamais il y a quelqu'un que ça tente de perdre du temps pour faire du geekage avec moi, ça me fera plaisir de lui expliquer ce qui s'est passé.
Okay.
Parce que je sais que le problème est apparu à un événement très précis.
C'est lors du passage de la comète qui...
Non, c'est lors quand Marie-Louise avait décidé d'effacer un vieux domaine, qu'elle pensait que plus rien ne se servait de ce domaine-là, jusqu'à ce qu'elle réalise que non. Que ça ne marchait pas de même, qu'il y avait plein de choses qui étaient liées à ce domaine-là. Et sérieusement, c'est pas que je pense que je passerais à peu près 48 heures à temps plein puis je le réglerais, mais c'est juste que ma vie fonctionne de telle façon que j'ai pas vraiment 48 heures à consacrer à ça en ce moment, parce que je me consacre beaucoup à des projets bénévoles de production. Et sinon, j'essaie de gagner ma vie, puis sinon, je dors. Donc...
Ce qui est plutôt bien.
Donc, je suis vraiment désolée, c'est de ma faute s'il y a ce problème de téléchargement automatique.
Mais on va petit à petit, on va régler tout ça.
Ben, petit à petit, je fais juste un appel à l'aide. J'aimerais quelqu'un que ça m'énerve vraiment. Ça me prend un geek qui ne m'haïra pas. Donc, pas un geek ingénieur, pas un geek mathématicien. Donc, j'imagine que des informaticiens ou un physicien, ça va aller parce que là, je me suis mis à dos des communautés de geeks préférées.
Mais non.
Je me rattraperai dans des prochaines critiques.
Est-ce qu'il me restait des infos, par exemple? Ah oui, non, c'était juste de mentionner Twitter, @24quarks, notre page Facebook, tout ça. Et puis, bien sûr, le courriel à 24quarks@gmail.com. La prochaine fois, c'est Doctor Who? C'est à moi de faire du travail pour la prochaine fois.
Ben
encore
oui.
Une série que, ben voilà, encore un truc que j'ai jamais vu, Doctor Who, voilà. Je l'avoue, j'ai honte, je n'ai jamais vu Doctor Who, jamais.
On ne peut pas parler de voyage dans le temps
sans parler de Doctor.
Sans parler de Doctor Who.
OK.
Et on espère avoir des invités bien spéciales pour cet épisode.
Ça serait super cool, c'est oui. Très probable. Donc, on espère que ça va se concrétiser.
On a beaucoup essayé d'avoir des invités.
Ouais.
Ce qui n'est pas toujours facile,
non.
Parce que les gens ne sont pas toujours conséquents dans leurs promesses de venir. Mais,
on cherche aussi potentiellement un troisième animateur. Là,
pour, Olivier va revenir.
Je ne sais pas quand il revient, je ne sais pas quand c'est prévu.
L'année
ça.
Prochaine.
Mais d'ici là, peut-être qu'on peut se trouver un autre animateur, ce n'est pas grave. Il y en a des gens compétents, intéressants.
Oui.
Qui font des podcasts.
En tout cas, pour la prochaine fois, j'ai très bon espoir parce que j'ai repéré des grands fans de Doctor Who.
Ah, c'est cool.
Qui m'ont comme promis qu'elle allait être là. Donc, on devrait...
Qui ne sont pas n'importe qui, en plus. Mais surprise.
Qui ne sont pas n'importe qui. On va jeter un peu de leur projet, vous allez voir, c'est le fun.
Ouais. Donc voilà. C'est ça, Doctor Who, la prochaine fois. Donc, juste pour expliquer, tu m'as fait une sélection, parce qu'évidemment, je ne vais pas me taper, je ne sais pas combien de saisons il existe de Doctor Who.
Bon, OK, mais... juste vite, Doctor, il y a deux moments de Doctor Who. Il y a le moment avant 2005, qui était la grande série des années 70, qui a comme joué jusque, je pense, en 2000... Ou, tu sais, fin des années 90, il y a eu comme des arrêts, il y a eu comme un épisode spécial à mi-chemin. Donc, il y a comme eu un 5 ans d'arrêt, ou peut-être entre 10 et 5 ans d'arrêt. Puis, il faut comprendre, c'est une série qui avait comme, tu sais, qui était vraiment une espèce de Star Trek. Puis, ils ont recommencé la série en 2005 environ, tu sais. Puis, la série qu'ils ont recommencé en 2005, ils ont comme continué. C'est comme s'il y avait une continuité avec l'ancienne.
Okay.
Mais c'était une nouvelle valeur de production.
Donc okay.
On est dans quelque chose qui ressemblerait plus en qualité à Sherlock, par exemple.
D'accord, OK, je comprends.
Dans cette qualité-là. Et il y a eu un docteur qui était vraiment extraordinaire.
OK, ben je me réjouis de voir tout ça.
De la deuxième saison. On va faire les deux premiers docteurs du reboot. On ira pas dans le troisième et certainement pas dans le quatrième.
OK.
Parce que j'ai passé un autre
moment. Mais tout ça, c'est tout nouveau pour moi. Donc, même là, ce que tu es en train de dire, là, je ne sais pas de quoi tu parles. Mais donc,
si tu lis tout ce que je t'ai écrit, parce que je t'explique aussi des détails qu'il
fallait
comprendre.
C'est ça. Il faut que je reprenne ton mémo, là, et puis que je repasse à travers tout ça.
Mais et ça s'écoute bien. Hein. C'est comme ça.
Ouais, oui. Non, mais
c'est très clair. Il n'y a pas de trucs compliqués. Quand les gens ils parlent, on comprend ce qu'ils disent. Je veux dire, l'histoire est très expliquée. Tu comprends tout. Je veux dire, même quand
on
tu commences en 2005, moi, j'ai rien écouté de la série des années 70, puis j'ai très bien compris, qui explique tout souvent, il n'y a aucun problème.
C'est cool, super. Ben, écoute, je me réjouis de découvrir tout ça, puis on pourra en parler la prochaine fois, qui j'espère ne sera dans pas trop longtemps, parce qu'on a tendance à être pas très fréquent de ce temps-ci, mais on essaie...
Avant Noël.
Avant Noël, c'est sûr. Avant Noël, c'est sûr, c'est sûr. Et j'aimerais qu'on en fasse deux avant Noël.
En fait, Doctor Who, ça bouclerait probablement la série Voyage dans le temps.
On pourrait encore y aller.
On n'aurait pas tout fait. Ça aurait été le fun de faire... Oui, mais ça, Terminator, c'est autre chose aussi.
C'est vrai. Mais en tout cas, ça va être ça. Donc, ça sera la prochaine fois. Et voilà, on va se quitter avec une petite bande-annonce. Si j'en trouve une, il doit y avoir des petites bandes-annonces.
La musique, tu vas voir la musique, hein. Tu peux pas. La musique de Doctor Who, là.
Voilà, et merci de votre fidélité. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye.
From her, you bitch!
Shall we play a game?
24 secondes.